Il est 5h.
Europe Matin.
Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
À la une ce matin, comme chaque semaine, vendredi thématique sur Europe 1. Aujourd'hui, focus sur le wokisme, une idéologie centrée sur les questions d'égalité et de défense des minorités. Exemple dans un instant avec un métier pas comme les autres, celui de relecteur sensible. Il ne traque pas les fautes, mais les potentielles offenses. La retraite à 65 ans, le gouvernement persiste et signe sur cette réforme des retraites. En coulisses, Emmanuel Macron prévient, en cas de motion, ce sera la dissolution de l'Assemblée. Chiche, lui répond l'opposition. Et puis les assises de la sécurité en Guyane aujourd'hui. Europe 1 est sur place, le territoire plaque tournante du trafic de cocaïne vers Paris. Une expérimentation lancée par le parquet de Cayenne prend fin aujourd'hui. Le résultat, c'est un échec total. Elle a même accéléré le recrutement de passeurs de drogue. Le journal de 5 heures avec Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Vendredi thématique sur Europe 1. Vous le savez, hein, tous les vendredis, on tente de vous éclairer, d'aller plus loin sur un thème de société pour comprendre son évolution. Et aujourd'hui, on parle du wokisme. Mais tout d'abord, c'est quoi le wokisme ? Eh bien, ce terme vient du mot anglais wake, être éveillé. Il regroupe une idéologie centrée sur les questions d'égalité, de justice et de défense des minorités. Bon, maintenant que les bases sont posées, intéressons-nous à un nouveau métier, celui de sensitivity reader ou en français relecteur sensible, une profession née aux États-Unis qui prend de l'ampleur en France. L'activité ne consiste pas à traquer les fautes d'orthographe, mais plutôt les phrases qui pourraient choquer les minorités ou communautés. L'éclairage de Thibaut Hu.
Toujours un manuscrit à la main, Albine, une bibliothécaire de 43 ans, est une relectrice sensible. À la demande d'auteurs, souvent blancs, elle corrige des manuscrits mettant en scène des personnages noirs.
C'est vraiment changer quelques tournures de phrases, décrire les couleurs de peau. Par exemple, dire qu'elle a la peau couleur café, alors que les personnes racisées disent qu'elle a la peau brune, elle a la peau noire. La limite, c'est ne pas censurer l'auteur. Ils ne sont pas obligés d'en tenir compte. Nous, c'est vraiment un travail de consultation.
Et ces correcteurs, il en existe pour tous les sujets. Orientation sexuelle, identité de genre, handicap. Et certaines maisons d'édition ont déjà pris le pas, comme Screenéo. Pour son directeur, Jean-Paul Arif, faire appel à des relecteurs sensibles est devenu systématique et logique dans le processus d'écriture.
On a fait des polars et j'avais un commissaire de police qui travaillait avec nous, avec l'auteur. Ce besoin d'avoir un référent, ça ne pose pas de problème en fait, lorsque maintenant on est sur des sujets plus sociétaux. Pour moi, c'est la même démarche.
Et selon Jean-Paul Arif, la pratique pourrait se démocratiser, même si ces relecteurs sont encore peu nombreux et proposent le plus souvent leur service par le bouche à oreille.
Thibaut Hu.
Le bilan de la journée de manifestation d'hier, plus de 250 000 personnes ont battu le pavé selon la CGT, 118 500 seulement selon le ministère de l'Intérieur.
Mobilisation un peu plus importante que prévu hein, pour le pouvoir d'achat et contre la réforme des retraites. Une réunion de l'intersyndicale est organisée au siège de l'UNSA lundi pour décider de poursuivre ou non le mouvement. Car pas question pour le gouvernement de plier. La retraite, ce sera à 65 ans. Elisabeth Borne lance un cycle de concertation et Emmanuel Macron a été clair, je cite, en cas de motion de censure à l'Assemblée, je dissous tout de suite. Alors Alexis de La Fontaine, la menace n'a pas eu l'effet escompté. Pire, RN et NUPES la voient même comme une aubaine.
Oui, cette possibilité réjouit les oppositions, persuadées qu'elles seront les grandes gagnantes d'une dissolution. À gauche, Jean-Luc Mélenchon, présent à la manifestation contre la réforme des retraites, reste très serein.
Moi, je prends pas ça pour une menace. Hein. Bah, à l'inverse, c'est une opportunité. Hein. C'est surtout pour les macronistes que c'est une menace. Ils sont peut-être pas rendus compte du point où en est le pays. Quoi. Les gens en peuvent plus, donc ils détestent parce qu'ils comptent sur eux pour régler les problèmes, ils n'en règlent aucun.
Et il n'est pas tout seul. Toute la gauche est convaincue qu'une dissolution donnerait une majorité à la NUP, même tonalité au Rassemblement National. Marine Le Pen répond avec malice, chiche, car avec 89 députés élus en juin dernier, Jean-Philippe Tanguy pense même pouvoir faire mieux.
Nous, on n'a jamais peur de retourner devant les électeurs. Je ne vois pas pourquoi on perdrait les députés, je pense même que nous en gagnerons.
Enfin, cette menace de dissolution pèse sur le MoDem, mais effraie surtout les Républicains. Très silencieux depuis cette annonce, car à droite, le risque est évident, faire réélire très peu de députés.
Merci Alexis de La Fontaine du service politique d'Europe 1, la réforme des retraites. On en parlera plus longuement hein, tout à l'heure sur Europe 1. Bruno Le Maire, ministre de l'économie, est notre invité à partir de 8h13.
Une série de faits divers dramatiques à Nantes. Une femme violée, un policier blessé et maintenant, un corps calciné a été découvert dans un parc en périphérie de la ville.
Oui, hein, le cadavre d'un jeune garçon qui n'a pas pu être identifié a été trouvé hier matin à Saint-Herblain. Une enquête pour assassinat est ouverte, confiée à la police judiciaire. Une autopsie pourrait être réalisée dans la matinée.
Europe 1, 5h05, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti et Gabriel Attal sont en Guyane pour reconnaître et acter l'échec de la lutte contre le trafic de cocaïne dans cette région.
Oui, hein, c'est aujourd'hui que prend fin une expérimentation controversée mise en place par le parquet de Cayenne pour désengorger les tribunaux. Classées sans suite, les saisies de moins d'1,5 kg de cocaïne, soit l'équivalent de 100 000 euros de drogue tout de même, alors qu'une centaine de voyageurs tentent chaque jour de faire Cayenne-Paris en avion chargé de cocaïne, parfois au péril de leur vie. C'est ce qu'on appelle des mules. Caroline Baudry.
Quelqu'un qui arrive avec des ovules plein le ventre, je peux vous garantir qu'elle n'est pas sereine, hein, parce que s'il y a un ovule qui craque, c'est l'overdose. Hein.
Ce genre de scène est quotidienne pour Olivier Laury, policier aux frontières à l'aéroport de Cayenne. Chaque jour, en moyenne, 3 avions décollent, direction Paris. Des dizaines de mules embarquent dans chaque appareil. La cocaïne est cachée dans leurs affaires ou ingérée sous forme d'ovules, de grosses gélules remplies de poudre blanche. Une à 4 mules par vol sont interpellées par son équipe.
Quand on lui pose des questions basiques de contrôle de police, que la personne ne sait même pas où elle va en métropole, on a déjà un gros doute. Dépistage urinaire, une prise de sang et un IRM. Une fois que la personne elle est interpellée, ils lui fournissent un traitement pour qu'elle expulse les ovules.
La méthode des narcotrafiquants, le recrutement de rue et l'appât du gain. La moitié des Guyanais vit sous le seuil de pauvreté, alors gagner jusqu'à 8000 euros en 8 heures de vol devient pour certains une évidence. Morgane Fournier est avocate à Paris. Elle défend des passeurs arrêtés à leur arrivée en métropole.
Des très jeunes majeurs qui sont sans emploi. Il y a eu une période où c'était des femmes enceintes, une façon de dissimuler justement le produit ou en tout cas le sentiment qu'on viendrait moins les contrôler. Les gens qui généralement sont dans une situation financière extrêmement précaire, voire qui sont parfaitement pris à la gorge.
Mais face à l'ampleur du phénomène, l'abandon des poursuites est une aberration selon Yvan Goua. Elle est porte-parole de l'association Trop Violent qui sillonne la Guyane pour empêcher les jeunes de céder aux trafiquants.
C'est du sabotage. On a toujours demandé des peines qui soient plus lourdes, qui puissent être compréhensibles pour un jeune et qui puissent dire aux trafiquants justement, non, je ne veux pas le faire parce que ça va me coûter cher.
L'expérience qui avait provoqué un tollé s'arrête. Sur place, des moyens supplémentaires sont réclamés pour contrôler davantage de voyageurs à l'aéroport et poursuivre les mules dans les tribunaux.
Et Europe 1 est en Guyane aujourd'hui, hein, car les ministres de l'Intérieur, de la Justice et des Douanes assisteront aux assises de la sécurité destinées à répondre à l'épidémie de violence qui touche le territoire. Déjà 30 homicides depuis le début de l'année dans le territoire qui compte 300 000 habitants.
Et Vladimir Poutine a pris la parole cette nuit après les référendums d'annexion de territoires ukrainiens par la Russie.
Oui, hein, et sans surprise, il a reconnu l'indépendance des régions de Zaporijjia et Kherson. Aujourd'hui, il doit entériner l'annexion des 4 territoires concernés par les référendums à l'occasion d'une cérémonie prévue au Kremlin à 14h heure française. Des festivités sont aussi organisées à Moscou. Conséquence, l'Ukraine hausse le ton. Volodymyr Zelensky réclame plus à l'Occident pour poursuivre la contre-offensive sur le terrain.
Cela pourrait être l'ouragan le plus meurtrier de l'histoire de la Floride.
Déclaration de Joe Biden, le président américain, hier après le passage de l'ouragan Ian. Pour l'instant, le bilan fait état de 12 morts. Le locataire de la Maison-Blanche estime qu'il pourrait avoir causé des pertes humaines substantielles hier soir. Plus de 2 300 000 foyers étaient toujours privés d'électricité. Joe Biden indique également qu'il se rendra sur place quand les conditions le permettront.
On termine ce journal avec peut-être l'anglaise préférée des Français. Elle s'appelle Jane Birkin.
Oui. À 75 ans, la muse de Gainsbourg part en tournée dans toute la France, Limoges, Montpellier ou encore Lille. Jane Birkin s'est confiée à Marie Jiquel. Elle revient sur les chansons les plus chères à son cœur, évidemment écrites par Serge Gainsbourg et notamment à Mélodie, sortie en 1971.
Mélodie, tu m'en auras fait faire des conneries.
C'était tellement joli de dire « tu m'en as fait faire des conneries » et puis ça correspondait bien à le personnage de Serge. Il y avait une chanson qu'il voulait qui s'appelle « Mélodie Li Babar, l'éléphant vert ». Et c'était à cause de Kate qui avait un babar en feutre où on tirait sur une ficelle et disait « bonjour, je m'appelle Babar, mon trompe est bouchée, tu n'as pas eu ça comme enfant ?» Et il avait fait toute une chanson là-dessus, donc il y avait une naïveté qui est exquise.
Mélodie Li Babar, l'éléphant vert, dont le chasseur a tué la maman.
Jane Birkin qui vient aussi de sortir un nouvel album, hein, Oh pardon, tu dormais, produit et composé notamment par Étienne Dao.
Et la voix de l'éternel Serge ce matin sur Europe 1 à 5h10. Merci Alban Le Prince.
Il est 5h10. Et on passe au sport, le journal des sports avec Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri.
Bonjour Ombline, bonjour Alexandre, Dimitri. Bonjour à tous.
On débute par du football, après la trêve internationale, retour en club pour les joueurs.
Et oui, retour avec le retour de la Ligue 1 aujourd'hui. Marseille se déplace à Angers ce soir pour l'ouverture de la 9e journée du championnat. Un match qui marque le début d'un grand marathon olympien avant la Coupe du Monde. Ils vont enchaîner 11 matchs en 44 jours. Pour le milieu marseillais à Minarit, une victoire face aux Angevins permettrait de bien entamer cette série, ainsi que de préparer au mieux la réception du Sporting en Ligue des Champions ce mardi.
À nous maintenant de mettre du rythme. Ce match va être important pour nous, pour la confiance, pour le mental. Et voilà, en Ligue des Champions, on sait que c'est des matchs coupe-gorge, voilà, où il n'y a pas le temps de réfléchir, il faut être performant à l'instant T. Ça va être l'entrée, on va dire, avant le plat de mardi.
Coup d'envoi de Marseille-Angers ce soir à 21h. Match que vous pourrez suivre dans Europe 1 Sport. Europe 1 Sport qui vous fera vivre les plus belles affiches de Ligue 1 de ce week-end, notamment PSG Nice demain ou encore le déplacement des Lyonnais à Lens dimanche.
En sport mécanique, Dimitri, début d'un week-end capital.
Exactement, puisque d'un côté, on a la MotoGP où le Grand Prix de Thaïlande pourrait bien être la course départageant enfin notre Français Fabio Quartararo et l'Italien Pecco Bagnaia à la lutte pour le titre. Et de l'autre, on a la Formule 1 où le pilote Red Bull Max Verstappen a la possibilité d'être champion à Singapour, mais le Néerlandais le sait, la tâche s'annonce difficile. Je ne pense pas à la possibilité d'être titré ici. Il y a vraiment peu de chance. Je vais essayer de faire un bon week-end et gagner. Et si on ne gagne pas, eh bien il faudra inscrire un maximum de points. Max Verstappen au micro de nos confrères de Canal+. Mission quasi impossible, puisque oui, il faudrait qu'il remporte ce Grand Prix de Singapour, ce qu'il n'a jamais réalisé. Et il faudrait que son coéquipier Sergio Pérez ne fasse pas mieux que 4e et Charles Leclerc pas mieux que 9e.
Basket à présent, avec la fin d'un rêve pour nos Bleus. ES lors du mondial féminin hier.
Et oui, la muraille chinoise était bien trop grande. Défaite en quart de finale 85-71 face à la Chine. La malédiction continue donc pour nos tricolores qui n'ont plus atteint le dernier carré de la compétition depuis 1953. Mais privés de nombreuses joueuses cadres, leur parcours reste plus qu'honorable. Surtout à moins de 2 ans des Jeux Olympiques de 2024 où elles tenteront de défendre leur médaille de bronze.
En bref, dans l'actualité sportive.
Eh oui, en judo, après son forfait pour les championnats du monde causé par une blessure, enfin une bonne nouvelle pour Teddy Riner. Notre Français a été retenu pour les championnats d'Europe en novembre prochain. Handball avec la victoire hier soir de Nantes en Ligue des Champions. 41-30 face à Elverum, un deuxième succès consécutif dans cette compétition pour les Nantais. Et enfin, on termine par du tennis où Novak Djokovic n'a pas tremblé au tournoi de Tel Aviv. Victoire en 2-7 face à Pablo Andújar. Ça passe aussi pour nos deux Français, Arthur Rinderknecht et Constant Létienne, qualifiés en quart de finale.
Merci beaucoup Dimitri Vernet, c'était le journal des sports sur Europe 1 et on passe aux courses à 5h13 avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses ce soir en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 503 Inoubliable. Âgé de 4 ans, c'est assurément l'une des meilleures juments de sa génération et il ne faut surtout pas la condamner. Sur son dernier échec, le 18 septembre dans le critérium des 4 ans, étant victime ce jour-là d'un très mauvais déroulement de course. Je sais qu'elle a très bien retravaillé depuis et cette jument de qualité trouve ce soir des conditions idéales pour se réhabiliter et rembourser aussi ses nombreux supporters. Notez bien, pour ce soir à Vincennes, réunion 1 dans la 5e course, le numéro 3, Inoubliable.
Merci Thierry Léger, on vous retrouve dans une demi-heure pour vos pronostics du Quintet. 5h14, très bon réveil sur Europe 1. L'histoire dingue d'Anissa Haddadi dans un instant, c'est celle d'un automobiliste belge. Il a confondu l'autoroute avec un champ de bataille. A tout de suite.
Europe Matin. Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
Excellent début de matinée avec nous. Bon réveil et merci de nous choisir. C'est maintenant, et vous tombez bien, l'histoire dingue d'Anissa Haddadi.
Oui, alors une histoire dingue carabinée, hein, c'est le cas de le dire, pour finir bien la choisi. Semaine. Anissa, l'histoire d'une interpellation, on va dire, étonnante dans le nord de la France.
C'est exactement ça. On sait que les blagues belges sont souvent les plus drôles. Et bien ce matin, je vais vous prouver que les conducteurs belges sont souvent les plus étonnants. L'histoire se déroule donc dimanche dernier. Nous sommes tranquillement sur l'autoroute dans le nord de la France. Et les policiers voit arriver au péage une voiture très étrange et surtout une voiture unique. De loin, on aurait pu croire un véhicule militaire, hein, un char, un mini-char. Quoi, ouais. En fait. Ouais, parce que les deux Belges à bord ont eu l'excellente idée de placer sur le capot une énorme mitrailleuse. Voilà ce que ça donne en photo.
Ah oui, d'accord.
On vous la mettra sur les réseaux sociaux.
Ah oui, d'accord.
Donc du coup, voilà, il y a cette énorme mitrailleuse de guerre.
C'est un peu surprenant.
C'est la sulfateuse, c'est la Gatling en fait, montée sur le capot de la voiture. Quoi,
c'est ça, exactement. En fait.
D'accord.
Alors on rit comme ça entre nous, mais cette histoire voiture, elle fait quand même peur, une arme de guerre sur l'autoroute.
Bah, c'est vrai que pour ceux qui ont croisé cette voiture dimanche dernier, ça a dû être très impressionnant. Mais après vérification, il s'avère que l'arme était factice.
Ah.
Mais la police a quand même rappelé à ce conducteur qu'il était interdit de décorer sa voiture de cette façon. Nous allons donc mettre la photo de cette voiture sur la page Facebook d'Europe Matin, le 5-7, sur les réseaux sociaux évidemment. Mais on a beaucoup réagi sur les réseaux sociaux à cette histoire sur son compte Facebook.
Très mauvaise blague hein, quand même.
La gendarmerie française du Nord a même commenté sur son Facebook « Dans le cadre de leur contrôle quotidien, les militaires de la gendarmerie du Nord sont amenés à trouver quelques pépites, comme cet automobiliste belge qui trouve certainement nos routes un peu trop dangereuses, mais qu'il se rassure, la gendarmerie est là. »
Bon.
Voilà, donc la photo, je vous la laisse, je vous la fais passer et on la met sur Facebook tout à l'heure.
On a connu plus malin quand même comme initiative. Ouais,
non mais surtout, je cherche toujours l'intérêt.
Oui. Enfin, oui, c'est ça.
Le but.
Elle est positionnée sur le capot avant, c'est ça.
Sur le capot, comme si elle allait viser les autres, mais en fait, elle est en plastique. Hein. Bon, enfin voilà.
C'est juste.
Voilà. Les Belges arrivent.
C'est pour faire joli. Je sais pas. Chacun ses goûts. Merci beaucoup, Anissa Dadi. On se retrouve juste avant 5h30 pour la météo. À tout à l'heure.
Europe Matin.
À 5h17 sur Europe 1, les titres de ce vendredi 30 septembre, c'est le journal permanent, Alban Le Prince.
Vladimir Poutine entérinera cet après-midi l'annexion de 4 régions ukrainiennes, celles qui ont fait l'objet d'un référendum. Ce sera à 14h heure française depuis le Kremlin. Des festivités sont ensuite prévues à Moscou. 2 300 000 foyers toujours privés d'électricité en Floride. Hier soir, l'État américain a été balayé par l'ouragan Ian, qui pourrait être le plus meurtrier de l'histoire de la Floride. Selon Joe Biden, 12 morts pour le moment. Le président américain se rendra sur place dans les prochains jours. Le Qatar a dévoilé ses règles pour la Coupe du Monde de foot qui commence le 20 novembre. Il est mal vu de serrer la main à une personne de sexe opposé. De fixer un Qatari, c'est impoli et inapproprié. Il sera bien vu de porter le voile pour les femmes qui devront porter des pantalons ou des jupes longues. Et puis la Convention citoyenne sur la fin de vie commencera ses travaux début décembre, le 9 précisément, et les rendra mi-mars.
Europe Matin.
Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
Allez, le dernier réveil de la semaine à 5h18 sur Europe 1. Bon courage à tous. Les initiatives en France à présent. On prend la direction de Trouville-sur-Mer, en Normandie.
Oui, pour les rencontres géopolitiques. Bonjour Frédéric Ancel.
Bonjour.
Vous êtes géopolitologue et l'organisateur des rencontres géopolitiques de Trouville qui se déroulent tout le week-end. Merci d'être avec nous sur Europe 1. Ces rencontres ont lieu tous les ans, Frédéric Ancel. C'est la 7e édition. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, tout simplement pour ceux qui ne connaissent pas, en quoi ça consiste ?
C'est très simple. Pendant 2 jours, et même d'ailleurs 3 jours maintenant, on va en reparler cette année, pour la première fois, il y a un peu plus de 300 personnes sur place, et puis bien évidemment tous ceux qui suivent et qui suivront par la suite le colloque, qui assistent à des tables rondes et des conférences. C'est-à-dire que tout le samedi et tout le dimanche, en l'occurrence le 1er et le 2 octobre, vous aurez 8 tables rondes avec 37 intervenants, des grands témoins prestigieux, j'en cite qu'un seul, l'académicien, ancien diplomate et écrivain Jean-Christophe Ruffin, des diplomates, des historiens, des militaires, des journalistes qui viennent parler de géopolitique. Chaque année, il y a un thème. Le thème de cette année est le suivant, où va l'Amérique ? Et c'était important au regard des midterms qui se tiennent là dans quelques semaines et bien évidemment au regard des crises ukrainiennes et taïwanaises.
Oui, bien sûr. On va revenir sur le thème dans un instant, Frédéric Ancel. Concernant ce rendez-vous, ce week-end dédié à la géopolitique qui est ouvert donc au grand public, c'est de rendre accessible la géopolitique à tout le monde.
Absolument. Les colloques que j'organise sont des colloques civiques et citoyens. On ne s'inscrit nulle part, on ne paye nulle part. Donc les gens rentrent, c'est dans le grand salon des gouverneurs du casino Trouville. Et il s'agit bien évidemment de partager, puisque les panélistes, les intervenants sont tous à la fois bien évidemment de très bon niveau sur le fond, mais je les choisis aussi en fonction de leur humanisme. C'est-à-dire qu'ils entretiennent beaucoup d'humilité, ils échangent beaucoup avec les gens de tous horizons, je crois pouvoir l'affirmer, qui viennent chaque année donc participer à ces rencontres. Je précise que c'est le premier festival géopolitique en France en importance.
Où va l'Amérique ? C'est le thème de cette 7e édition. Quels seront donc les grands temps forts de ces rencontres géopolitiques à Trouville ce week-end autour donc de cette Amérique à quelques semaines, vous l'avez dit, des midterms ?
Alors, dès samedi matin, la leçon inaugurale, parce que dans tout colloque universitaire qui se respecte, il y a bien sûr une leçon inaugurale. Dès samedi 9h30, elle sera donnée par l'ancien ambassadeur de France à Washington, mais également représentant permanent à New York, Gérard Haro. Et puis, vous aurez 2 tables rondes le samedi matin et 2 le samedi après-midi pour nous parler des enjeux internes. c'est-à-dire le wokisme, c'est-à-dire le trumpisme, mais c'est-à-dire aussi les questions sociales, économiques, énergétiques, climatiques qui concernent les États-Unis, tandis que le dimanche 2, toute la journée, pareil, quatre tables rondes, là, on parlera des questions internationales, donc typiquement militaires, stratégiques, les États-Unis et l'OTAN, les États-Unis et nous, les Européens, et bien évidemment le fameux complexe de Thucydide. Y aura-t-il une guerre, oui ou non, entre les États-Unis et la Chine, notamment autour de Taïwan ?
La politique de Joe Biden vis-à-vis de l'Europe puissance, hein, ça aussi c'est un moment important, du dimanche. Du
absolument,
coup.
Il y aura une table ronde très importante avec notamment le député européen et journaliste Bernard Guetta, avec Laurent Geoffrin, Jean-Hugues Bourlange qui dirige la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale et d'autres invités prestigieux qui nous parleront effectivement de l'Europe puissance et de l'OTAN. Oui ou non, l'Europe peut dans une certaine mesure sur le plan stratégique se dégager ou en tout cas trouver une espèce d'autonomie vis-à-vis de l'OTAN, c'est-à-dire de Washington, oui ou non, qui le veut, qui ne le veut pas. Et donc, nous essaierons de répondre à ces questions tout à fait cruciales, hein, avec la crise ukrainienne.
Alors, c'est un week-end très riche, on le comprend en vous entendant, et on l'a à peine évoqué un petit peu plus tôt, la nouveauté cette année, Frédéric Ancel, c'est l'accueil de scolaires, l'accueil d'élèves de première et de terminale. Ça, c'est vraiment la nouveauté 2022.
Absolument. Écoutez, ça fait 27 ans que j'enseigne la géopolitique, depuis presque un quart de siècle maintenant, à Sciences Po Paris en particulier, et il est très important de transmettre, d'autant plus que depuis la réforme Blanquer, les élèves de première et de terminale ont effectivement le choix de prendre plusieurs options, dont l'option géopolitique. Et là, 5 lycées, à la fois de Normandie, de région parisienne et d'autres régions, ont accepté de jouer le jeu, et donc 750 élèves seront accueillis toute la journée du vendredi, c'est-à-dire le 30 septembre, donc avant les deux plénières dont je parlais il y a un instant, pour se voir expliquer ce que c'est que la géopolitique. Et puis bien évidemment, ils auront dans la journée deux conférences sur le thème de cette année, c'est-à-dire les États-Unis, puisque, et ça ne vous aura pas échappé, les États-Unis sont évidemment au programme de première, de terminale, et d'ailleurs au programme aussi du CAPES et de l'agrégation.
La géopolitique dispensée aux plus jeunes, en tout cas des élèves de lycée, des lycéens, des élèves de première et terminale. L'objectif, c'est de susciter des vocations. Ils ont déjà fait la démarche de choisir cette option. Mais en gros, l'idée, c'est aussi qu'ils poursuivent cette voie.
Absolument. Alors d'abord, il s'agit de ne pas faire de la géopolitique comme M. Jourdain faisait de la prose. C'est-à-dire que la géopolitique, on va leur rappeler qu'il s'agit d'une discipline qui existe avec une vraie épistémologie, avec des critères, des paramètres, et que tout n'est pas géopolitique. Il ne s'agit pas de galvauder cette nouvelle discipline. Et puis surtout, on va leur donner des clés de compréhension pour plus tard. C'est-à-dire que s'ils ont choisi géopolitique par hasard, bah, si ça leur plaît, tant mieux, sinon ils arrêteront et ils feront autre chose. Mais s'ils veulent continuer dans cette filière, en quelque sorte, qui est très particulière et très neuve à certains égards, eh bien, on va leur dire très concrètement quelles sont les études qu'ils pourraient envisager pour continuer à faire de la géopolitique. Et puis surtout, plus tard, quels sont les métiers qui sont ouverts à la géopolitique de près ou de loin. Alors ça va du droit international aux ONG, en passant par la diplomatie, les fonctions militaires et pourquoi pas le journalisme.
Des experts, des historiens, des diplomates, des lycéens, les 7e rencontre géopolitique de Trouville, ça commence donc aujourd'hui, c'est aussi demain et dimanche au Casino Barrière à Trouville-sur-Mer, donc dans le Calvados. Merci beaucoup Frédéric Ancel.
Je rappelle que vous êtes
géopolitologue et vous êtes l'organisateur de cet événement. Bonne journée.
Bonne journée.
Bon réveil à tous avec Europe 1. Nous sommes le vendredi 30 septembre au programme de la prochaine demi-heure.
Alors on va enfiler ces gants de boxe. Alors les gants de boxe, mais pas seulement, hein, parce qu'on va vous parler de chess boxing. C'est une discipline sportive pas comme les autres. Elle mélange la boxe anglaise et le jeu d'échecs. C'est comme une sorte de biathlon en fait. Une soirée chess boxing aura lieu ce week-end à Paris. On va en parler à 5h40 avec le patron de la Fédération Française de Chess Boxing. Tout cela, ce sera juste avant votre prescription culture, Omblin.
Avec le roman culte du vendredi choisi par Nicolas Caro, aujourd'hui de sang-froid par Truman Capote qui est né un 30 septembre en 1924. Quant à Stéphanie Loire pour la musique, elle nous parlera de l'album posthume du chanteur belge Arnaud.
La Paloma, adieu.
La Paloma, adieu.
Adieu,
c'est toi que j'aime.
Voilà, la chanson qu'on entend, c'est Paloma,
adieu.
Extrait d'Opex, le disque posthume d'Arnaud, la prescription culture, à 5h50.
Et à 5h28, dès maintenant, la météo de ce vendredi, Anissa Haddadi, on va enfin pouvoir profiter d'un peu de soleil.
Et c'est une... Voilà, c'est une excellente nouvelle. Nous sommes très heureux grâce à l'anticyclone qui est de retour et grâce à lui. Nous allons avoir droit à un vendredi beaucoup plus ensoleillé que le reste de la semaine. Mais n'oubliez pas que nous sommes en automne et donc le matin, il faut faire attention au brouillard. Et aujourd'hui, ils sont
pas bien.
Ils sont particulièrement nombreux, les brouillards. Attention sur les routes, donc entre les Ardennes et le Rhône, surtout le Grand Est. Dans l'Oise, le Cotentin, le Finistère, le Centre, le Limousin, le Poitou, la Gironde. On a beaucoup, beaucoup de brouillard ce matin. Une fois les nuages bas dissipé. Ce sont les éclaircies qui l'emportent. Bon, il va faire beau sur les trois quarts de la France, vous le savez. Parfois, il y a des petits bémols, il y a des exceptions. Du soleil partout, sauf sur les côtes de la Manche, où là, ça se couvre parce qu'une nouvelle perturbation arrive pour demain. Et puis sur la Corse, où là, le temps reste agité avec beaucoup de nuages, des averses et même des orages. Les températures, il fait frais. Hein. 1 degré à Charleville-Mézières, 4 au Mans et à Colmar, 6 à Paris-Belfort, 10 à Toulouse et au Havre, 13 à Marseille, 16 à Nice. Et cet après-midi, bah, c'est vrai que quand il y a un peu moins de nuages, il fait un peu plus frais. Mais quand il y a un peu plus de soleil, ça remonte un peu. 13 à Saint-Etienne, 15 à Besançon, 17 à Lyon, 19 pour Paris et Lille, 22 à Ajaccio, 23 à Bastia.
Merci Anissa, très bon réveil avec Europe 1, 5h30. Un programme très riche, le journal de 5h30. Bonjour Christophe Lamar.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Il s'appelle Saïd Wichou. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais dans les quartiers nord de Marseille, le docteur Wichou est incontournable. L'homme est réputé pour son professionnalisme. D'ailleurs, ses patients l'adorent, mais ils devront bientôt faire sans lui. Le médecin fermera définitivement son cabinet la semaine prochaine. Face à la multiplication des agressions verbales et physiques, il a préféré partir. Reportage à Marseille de notre correspondant Stéphane Burgat.
C'est devenu un rituel pour le docteur Saïd Wichou.
Là, je suis obligé de fermer la porte pour que l'accès ne soit pas libre à mon cabinet. C'est le dernier moyen que j'ai trouvé pour me mettre un petit peu à l'abri.
Car l'agression dont il a été victime n'est hélas pas la première.
Ça arrive de temps en temps, c'est des gens qui viennent pour une consultation et la personne, il voulait pas attendre. Il tombe au ring sur la porte pour que je le prenne tout de suite. Il voulait me frapper. Et les patients dans la salle d'attente s'étaient interposés. Avant, ça arrivait une fois tous les 4 mois. Bon, maintenant, régulièrement, ça arrive plusieurs fois dans la semaine.
Le docteur Wichou a déjà porté plainte 5 fois, des dossiers tous classés sans suite, d'où son départ. Un échec, il le déplore, ses patients sont dépités et craignent que le quartier ne devienne un désert médical.
Je comprends pas, franchement, il est compétent, il est apprécié par tout le quartier. Bien sûr, c'est un problème. C'est pas bon, nous, on morfle, nous. Il n'y a pas suffisamment de médecins. Il y en a deux, les autres. À 10h, c'est complet. À l'après-midi, à 3h30, c'est complet. Et leur salle d'attente, elle est pleine.
Le cabinet fermera ses portes définitivement la semaine prochaine. Le médecin rejoindra, lui, le cadre plus sécurisant d'une maison médicale. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1.
Les vendredis thématiques d'Europe 1, votre rendez-vous hebdomadaire pour comprendre le monde qui nous entoure. C'est un phénomène importé directement des États-Unis, le wokisme, en français être éveillé. Derrière cette expression, la défense des minorités dans un monde jugé hostile. On se penche ce matin sur ces adolescents qui se revendiquent transgenres. Ils sont nés hommes ou femmes, mais ils refusent d'être assignés à leur sexe de naissance.
Et ils demandent donc à pouvoir changer de prénom du masculin au féminin et inversement. Le Conseil d'État vient de leur donner raison. Désormais, les élèves de collège ou de lycée pourront se faire appeler par un autre prénom que celui choisi par leurs parents. Avec quelques nuances, David Montagnier.
Oui, les enfants transgenres pourront se faire appeler par un prénom qui n'est pas le leur, en tout cas pas celui de leur état civil. Cela se fera avec l'autorisation des parents si l'enfant est mineur. C'est ce que confirme le Conseil d'État qui valide ainsi les instructions de la circulaire Blanquer de septembre 2021, un texte qui ne fait pas l'unanimité. L'objectif affiché en tout cas est de protéger les élèves transgenres, de faciliter leur accompagnement au nom de la scolarisation inclusive de tous les enfants. Une décision saluée par Éric Labastie, secrétaire général de la FCPE.
C'est réellement une avancée très 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 importante qui permet de créer un environnement scolaire qui garantit aux enfants et aux adolescents et aux adultes aussi qui se questionnent sur leur identité de genre, le droit à l'intégrité, au bien-être, à la santé et à la sécurité.
Une limite cependant à cette liberté, le véritable prénom doit être conservé pour la notation des élèves. Mais pour beaucoup, il s'agit d'une offensive de l'idéologie transgenre sur l'école française. L'association SOS Éducation a lancé dès l'an dernier une pétition contre cette circulaire.
David Montagnier.
Les vendredis thématiques d'Europe 1. Donc on va continuer de parler woke tout au long de cette matinale avec des reportages, des interviews et tous nos invités. Europe 1, 5h34, l'enquête sur le sabotage de Nord Stream en mer Baltique ne fait que commencer. avancées. Une enquête qui s'annonce difficile, Christophe.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies abordera la question aujourd'hui à New York. Il s'agira d'apporter des éléments pour éclaircir la situation. De leur côté, le Danemark et la Suède ont ouvert une enquête. On va donc sonder le fond de la mer Baltique pour trouver des indices. Des investigations suivies de près par Paris, où l'on ne se fait pas trop d'illusions, Nicolas Toneff.
Oui, plusieurs raisons à cela. D'abord, les fonds à l'endroit des explosions, seulement 70 mètres. Hein. 5 à 6 pays dans le monde savent opérer à cette profondeur. Conséquence, même si elle est la plus étudiée, la piste russe n'est pas la seule. Autre obstacle potentiel à l'enquête, le mode opératoire. Le plus probable serait l'usage de mines. Des engins d'une puissance totale d'environ 6 tonnes de TNT pour les 4 explosions peuvent avoir été installés il y a plusieurs semaines et déclenchés à distance. Le moment voulu, il faudrait donc retracer le passage de centaines de bateaux pour identifier celui qui s'est arrêté à la verticale des gazoducs. Enfin, il va falloir 1 à 2 semaines aux spécialistes pour se rendre sur place. Des délais qui laissent le temps au courant de faire le ménage. Hein, les éventuels débris trouvés sur place peuvent aussi être trompeurs. Les services secrets utilisent souvent des armes originaires d'autres pays que le leur pour cacher leurs méfaits. Et puis, quant à l'analyse des faits au sein du gouvernement français, d'après les sources d'Europe 1, il s'agit d'un avertissement envoyé à l'Occident sur sa fragilité dans une zone sillonnée de câbles et de tubes facilement accessibles.
Nicolas Toneff.
Et sur le front diplomatique, Vladimir Poutine s'apprête maintenant à entériner l'annexion d'une partie de l'Ukraine.
À 14h, heure de Paris, Moscou annoncera officiellement le rattachement des 4 régions ukrainiennes à la Russie au cours d'une cérémonie officielle. Elle sera suivie d'un discours de Vladimir Poutine et d'un concert géant à proximité du Kremlin. Processus nul et non avenue pour les Occidentaux. Jamais, 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 nous ne reconnaîtrons le résultat des référendums. C'est ce qu'affirme le président américain Joe Biden.
La Floride fait un premier bilan des dégâts causés par l'ouragan Ian. Les destructions sont colossales.
Plus de 2 millions de foyers ou de commerces sont toujours sans électricité. Le bilan humain est déjà lourd. Au moins 12 morts. Les autorités craignent qu'il ne s'aggrave au fur et à mesure de l'avancée des recherches. On retrouve Alexis Guillot, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Alexis, sur le plan strictement matériel, une partie de la Floride est littéralement dévastée.
Oui, notamment sur le littoral du sud-ouest de la Floride, ravagé par l'arrivée de l'ouragan, des destructions bibliques selon les mots du gouverneur dans une région qui était en plein développement. Le comté de Lee a vu sa population doubler depuis les années 90, le marché immobilier bien moins cher que du côté de Miami était en pleine expansion et aucun ouragan n'avait directement touché cette zone depuis près de 20 ans. Ian a tout balayé, confie sur CNN le maire de Fort Myers, Kevin Anderson.
C'est un centre-ville que nous avons mis plusieurs décennies à reconstruire et à revitaliser. Et je m'inquiète de voir ces commerces fermer définitivement. On perdra cette ressource économique et ce n'est pas bon non plus pour le tourisme.
Cette reconstruction sera également très compliquée pour ceux qui ont tout perdu, d'autant plus que les assurances contre les catastrophes naturelles sont loin d'être répandues en Floride. Moins de 20% des habitants dans la zone d'évacuation étaient assurés contre le risque d'inondation, selon un cabinet indépendant. Et les Américains le savent, le soutien de l'État ne sera pas suffisant pour les aider à retrouver leur vie d'avant.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Ian n'a sans doute pas achevé son entreprise de destruction. Il vient d'être reclassé en ouragan et remonte vers 3 États du sud du pays. La Caroline du Nord, la Caroline du Sud et la Géorgie.
La Coupe du Monde de football débute dans moins de 2 mois maintenant. Match d'ouverture le 20 novembre à Doha au Qatar. Alors que les appels au boycott se multiplient parmi les sportifs. La ministre des Sports a mis les choses au point hier soir sur Europe 1.
Oui, Amélie Oudéa-Castéra était l'invitée d'Europe 1 Sport. La ministre n'est pas favorable à un boycott. Elle estime au contraire, que ce mondial au Qatar permettra peut-être au pays d'avancer sur la question des droits de l'homme. On l'écoute.
Je pense que cette décision d'inscrire la Coupe du Monde au Qatar, elle a été prise il y a 12 ans, dans un contexte qui était différent à l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, on pèserait les critères de la même façon? Probablement pas. Il faut, et je trouve que les paroles d'Amnesty en ce sens étaient justes, il faut qu'on se serve maintenant de cet événement au Qatar pour faire levier et continuer de faire progresser la situation. Quand on voit les premiers progrès qui ont été faits dans les législations 2018-2020 sur la situation des travailleurs au Qatar, c'est encourageant. Il faut que ces progrès, ils se poursuivent. Il faut que les engagements soient tenus. Voilà, c'est maintenant, ça n'est pas suffisant. C'est très clair.
Donc il ne faut pas boycotter, ce n'est pas la bonne solution.
Moi, je crois en l'action diplomatique.
Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, invitée de l'émission Europe 1 Sport hier soir. Le football, toujours, fin de la trêve internationale et donc reprise du championnat de Ligue 1 ce soir avec le début de la 9e journée. Marseille reçoit Angers à 21h.
Merci Christophe Lamar. 5h39 sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez. Voici les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Alexandre. C'est en nocturne sur l'hippodrome de Vincennes que va se courir ce Quintet. 16 trotteurs, tous âgés de 5 ans, répartis sur 2 points. poteaux différents de départ, 2850 et 2875 mètres. Et je vous recommande tout particulièrement Aubryon-Colmy, le numéro 9, en gros retard de gain et qui, en dépit de son handicap de 25 mètres, ne devrait avoir aucune difficulté à s'imposer et remporter ainsi sa troisième victoire depuis le début de l'année. On lui opposera les numéros 15, Udo Duruel, facile lauréat le 20 septembre sur l'hippodrome de Vincennes et qui, sur sa lancée, devrait pouvoir ici confirmer 5 hip-hop de Metcoeur, actuellement très performant, quel que soit le parcours proposé, et 8 Happening, idéalement engagé à la limite du recul des 25 mètres et qui pour l'occasion sera déféré des postérieurs. Enfin les numéros 12, It's Scott, 11, Horus de Romaz, 14, Harry Carizet et 16, Hermès d'Écroville compléteront ma sélection. Mon pronostic, 9, 15, 5, 8, 12, 11, 14 et 16.
Des pronostics que vous retrouvez sur europe1.fr. Merci beaucoup Thierry Léger.
Cet adversaire,
allô Jacques-Marie,
c'est le monde de la finance.
Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance.
C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ».
Voici les Rolling Stones.
Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Et aujourd'hui, c'est Nuit Blanche. Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour Alexandre, bonjour Omblin.
C'est l'événement culturel du week-end qui arrive. La Nuit Blanche, comme chaque année, un grand nombre de musées, de salles de concert et de lieux publics vont rester ouverts gratuitement toute la nuit. La Nuit Blanche fête cette année ses 20 ans d'existence. Elle est née à Paris en 2002 et à l'époque, Lord, eh bien la première édition est perturbée par un grave incident.
Oui, le maire de Paris, Bertrand Delanoë, est poignardé dans les salons de l'Hôtel de Ville, dans le centre de la capitale. On est en pleine nuit, il est 2h30 du matin, alors que la mairie est bondée de visiteurs. Un inconnu se jette sur le maire de Paris, ce témoin raconte.
J'ai vu M. Delanoë s'écrouler. Ils ont fait appel à un docteur, il y avait un orchestre au fond de la salle, il y avait une chanteuse. Après, ils ont fait sortir tout le monde des deux côtés du hall. Voilà.
L'agresseur, Azedine Berkane, est un homme de 39 ans, condamné pour des affaires de violence et de stupéfiants. Il dira avoir agi sous l'effet d'une pulsion parce qu'il n'aime pas les hommes politiques, particulièrement les homosexuels. Bertrand Delanoë est transporté à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et opéré pendant 3 heures, récit du journaliste d'Europe 1 Mathieu Delahousse.
Le maire de Paris retrouve maintenant peu à peu ses esprits, mais les suites opératoires prendront du temps. C'est de son lit d'hôpital que Bertrand Delanoë suivra les développements de l'enquête autour de son agresseur.
Et cette nuit-là, la nuit de l'agression, Bertrand Delanoë demande que la fête continue à l'Hôtel de Ville, que la mairie reste ouverte au public.
À l'époque, lors cette agression du maire de Paris relance le débat sur la sécurité des personnalités politiques.
Oui, Bertrand Delanoë avait refusé d'avoir une protection rapprochée. Daniel Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur et proche du maire de Paris, s'exprime alors sur Europe 1.
Quand j'étais ministre de l'Intérieur, je lui avais proposé, mais il m'a dit « ça va mettre une barrière entre les gens et moi, et tu sais bien comment je suis ». Il y a, je dirais, de la démence dans cette société, c'est une question qu'il faut que nous nous reposions. La sécurité, c'est tout aussi cela, c'est ces actes fous, cette violence.
Un an et demi plus tard, la justice va rendre un non-lieu, déclarant que l'état mental de l'agresseur de Bertrand Delanoë le rend irresponsable pénalement et l'homme est interné en hôpital psychiatrique.
Merci beaucoup, Lord d'Autriche, et à lundi pour un nouveau jour où sur Europe 1.
À 5h42 sur Europe 1, que diriez-vous d'un match de boxe au réveil? Alors je vous rassure, hein, on va parler aussi de jeux d'échecs. Le chess boxing, c'est tout cela à la fois. Dans ce sport, on s'affronte sur le ring et sur l'échiquier. Découverte dans un instant avec le patron de la Fédération française de chess boxing.
Europe Matin, Alexandre Lemaire et Omblin Roche.
Est-ce que vous avez déjà entendu parler de chess boxing? Il s'agit donc d'une discipline sportive, pas comme les autres évidemment. Elle combine la boxe anglaise et le jeu d'échecs. Un rassemblement est organisé ce week-end à Paris. Votre invité Alexandre, c'est Guillaume Salençon, président de la Fédération française de chess boxing.
Bonjour Guillaume Salençon.
Bonjour.
Alors le chess boxing, c'est un peu le biathlon du ring ou de l'échiquier. On est forcément surpris hein, quand on découvre ce sport hybride. Il réunit deux disciplines a priori très éloignées l'une de l'autre, la boxe et les échecs. Expliquez-nous.
C'est vrai qu'on nous compare souvent au biathlon et j'aime beaucoup moi ce sport, le biathlon, un effort physique et de la concentration. Nous on est plus sur un effort physique et de la réflexion, donc c'est quelque chose qui va un petit peu plus loin je trouve. Et en fait, voilà, bah, écoutez, c'est vrai que c'est un sport qui paraît complètement oxymore, hein, deux disciplines que tout oppose, mais qui, au final, quand on pratique ce sport, on se rend compte qu'il y a des vraies similitudes et qu'il y a des passerelles assez intéressantes entre les deux disciplines.
Alors le chess boxing sollicite à la fois le meilleur de la force physique et de la force mentale. Hein. Quelles sont les règles du jeu, en quelques mots? Est-ce qu'on alterne les coups sur le ring et sur l'échiquier?
Non. Alors en fait, il faut faire un petit peu d'histoire. Le chess boxing, ça a été inventé par Enki Bilal, le dessinateur, dans une BD en 1992 qui s'appelle Froid Équateur.
C'est extraordinaire, ça vient de l'imagination d'un auteur de bande dessinée. Hein.
Ouais. D'un artiste, ouais, c'est ça. Froid Équateur qui déjà en soi est un oxymore. Donc il travaillait dans cette BD sur justement une société dystopique et il essayait de trouver un sport qui pouvait résumer le meilleur de l'homme, à savoir intellectuellement et puis physiquement. Et donc il a tout naturellement, il s'est retourné vers la boxe qui pour lui était un de noblard et il a pensé tout de suite aux échecs. Donc il a eu l'idée de faire ce sport, de dessiner ce sport dans quelques cases de BD. Et puis 10 ans après, un autre artiste, un artiste d'art contemporain, Jeppe Rubing, hollandais, faisait des performances et était fan de Enki Bilal et a décidé, était un très grand joueur d'échecs, et a décidé de prendre au mot et de créer les règles, donc de faire de cette idée qui était dans une BD juste abstraite, de faire quelque chose de vraiment concret. Ça, c'était en 2003 et tout de suite, un succès grandissant, des gens intéressés et il s'est rendu compte que il avait inventé un sport. Donc ces deux artistes ont inventé un sport. Voilà, c'est ça qui est assez intéressant, je trouve.
Alors très concrètement, en quelques mots, vraiment les règles du jeu, le fonctionnement d'un match de chess boxing, Guillaume Salençon.
C'est très très simple. On est sur un ring, il y a l'échiquier qui est placé sur le ring. Les deux combattants commencent par un round d'échecs de 3 minutes. Donc ils jouent avec une pendule en blitz de façon rapide. Si il n'y a pas eu échec et mat, on enlève l'échiquier, les combattants mettent des gants et pendant 3 minutes, ils font un round de boxe. Et ainsi de suite, en alternance, jusqu'à ce qu'il y ait échec et mat ou KO.
Vous avez joué vous-même un rôle de premier plan hein, pour faire basculer le chess boxing du monde de la fiction d'Enki Bilal à la réalité et pour développer également sa pratique. Il remonte à quand, en France, les premiers combats officiels de chess boxing?
Alors, les premiers combats officiels, c'est nous qui les avons faits en 2019. Après, par contre, il y a Thomas Cazeneuve, on a des pionniers hein, depuis 2016-2017 qui ont combattu et qui sont allés au championnat du monde. C'est eux vraiment qui ont commencé à sortir le chess boxing un peu, de le mettre en lumière au niveau français parce qu'il y a plus de 20 fédérations dans le monde. Il y a des pays comme l'Inde, la Russie, évidemment, l'Allemagne qui sont assez structurés. Donc nous, c'est vraiment depuis 2019 où on a commencé à faire des combats officiels, où on a créé la fédération, on a créé une équipe de France et nous sommes allés au championnat du monde qui a eu lieu en décembre 2019 en Turquie et Antalya. Et d'ailleurs, un film a été fait sur cette histoire qui passera dans pas longtemps sur Canal+, donc j'invite vos auditeurs à le voir quand il passera. Ça raconte l'histoire en fait de la naissance de ce sport en France.
Vous êtes aujourd'hui organisé en fédération donc dont vous avez la tête, Guillaume Salençon. Combien de licenciés en France?
Alors, pour l'instant, pour être très très honnête, et je vais être très honnête, on n'est pas une fédération qui est reconnue par l'État, car il faut un agrément, il faut passer une part des phases, donc au moins 3 ans, et puis le ministère des Sports doit analyser votre fédération. Mais on essaye de fonctionner comme une fédération, donc je pourrais pas vous dire le nombre de licenciés. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a une vingtaine de clubs en France qui sont créés, et on a, il y a un engouement qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on a des centaines de pratiquants en France, pour pas dire des milliers. Non, après, en combattant pur, qui peuvent aller combattre pour faire de la compétition, on est sur une cinquantaine de combattants. Voilà.
Il y a des championnats du monde de chess boxing aujourd'hui. Et la France, je crois, tire plutôt bien son épingle du jeu. Hein.
Oui, c'est ça. Écoutez, en tout cas, au dernier de 2019, parce qu'évidemment, il n'y en a pas eu en 2020-2021 à cause du Covid, on a vraiment bien tiré notre épingle du jeu. Mais je vous avoue qu'aux prochains qui auront lieu là en novembre en Turquie, toujours, on est très attendus. Donc on a très peur.
La nuit du chess boxing, c'est donc ce samedi soir au Cabaret Sauvage à Paris. Elle va se dérouler comment la soirée? Ça va être des pointures de la discipline qui vont s'affronter?
Tout à fait. Alors on a deux gros combats. Il y a 4 combats, donc il y a 2 gros combats. Il y a un titre de champion de France qui va jouer et un titre de champion du monde. Parce que l'IFC, si vous voulez, est une ligue sportive, un peu comme au même titre l'UFC dans le MMA. Donc c'est une ligue qui va regrouper les meilleurs chess boxeurs mondiaux.
Question subsidiaire, est-ce qu'il reste des places pour le Cabaret Sauvage pour
demain soir? Il reste des places, bien sûr. Et en fait, si vous voulez, une soirée, un IFC, ce sont des combats de chess boxing. Alors, il y a aussi des combats de débutants, parce que nous, on veut aussi vraiment promouvoir les débutants et les gens qui ont envie de, de se lancer dans l'aventure de monter sur un ring, parce que c'est quand même une aventure de travailler, de s'entraîner pour monter sur un ring. Donc on veut qu'il y ait des débutants, mais il y aura aussi des combats confirmés. Mais aussi autour de cette soirée, il y aura beaucoup de musique, beaucoup de shows, parce que l'organisateur justement de ces soirées, qui était donc YP Rubing, l'artiste qui a créé le sport, est décédé, nous a quitté il y a 2 ans. Et donc il voulait vraiment qu'il y ait un crossover entre tous les arts, entre la danse, la musique, le sport, pour que justement voilà, on décloisonne et on sorte ces deux disciplines des clichés qui leur collent un peu trop à la peau et qu'on essaye de sortir le meilleur de chaque discipline.
Le chess boxing, mélange surprenant hein, d'échecs et de boxe anglaise avec cette grande soirée demain soir au Cabaret Sauvage à Paris. Merci Guillaume Salençon, président de la Fédération française de chess boxing. Merci à vous.
Merci beaucoup, au revoir.
Europe Matin. 5h50, les titres de l'actualité, Alban Le Prince.
Europe 1 est en Guyane aujourd'hui à l'occasion des assises de la sécurité en présence de Gérald Darmanin, Gabriel Attal et Éric Dupond-Moretti. Dans le territoire, la criminalité explose. 30 homicides depuis le début de l'année sur une population de 300 000 habitants. La CGT revendique 250 000 manifestants. Le ministère de l'Intérieur en a compté 118 500. Mobilisation un peu plus importante que ce qu'avait anticipé l'exécutif hier pour le pouvoir d'achat et contre la réforme des retraites, mais pas de quoi faire plier le gouvernement, ce sera 65 ans à partir de 2031. Et puis vendredi, thématique sur Europe 1 aujourd'hui, comme toutes les semaines. Aujourd'hui, on s'intéresse à la pensée woke. Qu'est-ce que c'est? Doit-on s'en méfier? Comment s'exprime-t-elle en France? Réponse à travers différents reportages et interviews toute la journée.
Europe Matin.
Très bon début de matinée sur Europe 1. Allez, une très belle prescription culture pour ce vendredi. Omblin.
Oui, la musique avec Stéphanie Loire, ce sera dans un instant.
Tout de suite, un roman culte. Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Omblin, bonjour Alexandre.
Le vendredi, Nicolas, vous nous présentez un classique. Aujourd'hui, 30 septembre, c'est la date anniversaire de l'écrivain américain Truman Capote, outre-Atlantique, on dit Truman Capote. Vous avez choisi son grand roman, Nicolas Caro, il s'appelle « De sang-froid ».
Oui, Truman Capote, né en 1924, mort en 84. Truman Capote, un authentique grand écrivain. Petit déjeuner chez Tiffany, tout le monde connaît. Il n'a pas publié tant que ça, en fait, mais il a créé un style, une école, et notamment dans la catégorie narrative non-fiction, en bon français. On n'a pas vraiment l'équivalent, d'ailleurs, chez nous, même si Philippe Jaénada ou Emmanuel Carrère en écrivent avec beaucoup de talent. C'est une enquête journalistique, mais avec une mise en scène de l'auteur, une subjectivité totale et la forme, les techniques du roman. On dirait un récit, mais ce n'est pas tout à fait le bon terme. Et le chef-d'œuvre du genre, c'est De sang-froid.
Et en fait, c'est l'écrivain Truman Capote qui se met en scène. Il se rend dans un lieu où s'est déroulé un meurtre.
Exactement. Nous sommes au milieu des années 60. Truman Capote est un écrivain new-yorkais très jet-set, très mondain. Un jour, il entend parler d'un terrible crime qui a eu lieu dans le Kansas en 1959. Deux hommes ont tué 4 membres d'une même famille de fermiers. Ils ont été arrêtés. Ils risquent évidemment la peine de mort. Truman Capote s'y rend. Il s'installe là-bas et il fait une véritable enquête. Il interroge tout le monde, se rend sur les lieux.
Et il va même rencontrer, Nicolas, les assassins.
Absolument. Il veut comprendre comment on passe de marginal à criminel et il raconte tout. C'est pas un roman parce que tout est vrai, mais c'est pas non plus un travail de journaliste parce qu'il se met en scène, il ne cherche pas l'objectivité. Au contraire, c'est un texte tout à fait subjectif, mais c'est surtout incroyablement bien écrit. Écoutez la première phrase. Le village de Holcombe est situé sur les hautes plaines à blé de l'ouest du Kansas, une région solitaire que les autres appellent là-bas.
Ouais, dans cette phrase, c'est ce là-bas hein, qui est terrible.
Mais oui, c'est le style de Capote et c'est ce qui a marché. Il a d'abord publié le livre par épisode dans le New Yorker et puis en volume en 1966. 8 millions d'exemplaires vendus, mais il en a payé le prix. Truman Capote a été complètement fracassé par cette histoire. Il a assisté à leur exécution. C'est resté un traumatisme et c'est vrai qu'il y a quelque chose de dérangeant dans ce livre. Vous n'en sortez pas indemne.
Et c'est aussi ce qui fait la marque des grands livres de sang-froid, donc, de Truman Capote. Merci beaucoup, Nicolas. Place à la musique avec Stéphanie Loire. Maintenant, bonjour.
Bonjour à tous.
Bonjour Stéphanie. Alors, on commence avec vous, avec l'album posthume ce matin du chanteur belge Arnaud.
Oui, Arnaud, sa poésie rock écorchée vive et son timbre rauque absolument unique nous quittait le 23 avril dernier à l'âge de 72 ans après s'être battu contre un foutu cancer du pancréas. Jusqu'à son dernier souffle, Arnaud a fabriqué ce qu'il savait être son ultime album, un disque intitulé « Opex », du nom du quartier populaire de son enfance à Ostende, un véritable bijou porté par la verve de l'artiste, comme une lettre d'adieu dans laquelle il s'est entouré de ceux qu'il aimait. Et puisqu'il en rêvait depuis 20 ans, il se l'est offert un duo avec Mireille Mathieu, une reprise version reggae de La Paloma Adieu.
La Paloma Adieu.
La Paloma Adieu.
Adieu,
c'est toi,
toi
que j'aime.
Les titres de ce 15e et dernier album studio d'Arnaud, le morceau « Court-circuit dans mon esprit », emmitouflé par les notes de piano du virtuose Sofiane Pamart, avec qui il avait d'ailleurs déjà collaboré en 2021.
Il y a un court-circuit dans mon esprit, save me, save me. Il y a un court-circuit dans mon esprit, save me, save me. Je suis avec tout le monde, mais avec personne. Et je ferme ma gueule quand je suis tout seul. L'esprit peut faire mal quand on pense, et les pieds quand on danse. Il y a un court-circuit dans mon esprit, save me, save me. Il y a un court-circuit dans mon esprit, save me, save me.
Court-circuit dans mon esprit.
Magnifique.
C'est un extrait oui, très très beau de Opex, l'ultime album du chanteur belge Arnaud. On passe à présent à une nouveauté, Stéphanie, qui concerne Red Carr, ex Christine and the Queens.
Christine and the Queens, qui se genre désormais au masculin, est réapparue à travers le personnage mystérieux de Red Carr avec le titre « Je te vois enfin ». Et là, il vient de dévoiler un nouveau morceau nommé « Rien dire », toujours très inspiré par les sonorités de la fin des années 80.
On sait, mais sans jamais rien dire.
La sortie du prochain album de Red Carr va s'appeler Les Adorables Étoiles et elle est décalée au 11 novembre prochain suite à une blessure de l'artiste en répétition.
Merci beaucoup Stéphanie Loire. Vous restez avec nous sur Europe 1 pour passer une très belle matinée. Bon réveil. Dans deux minutes, il sera 6h. Comme chaque semaine, vous retrouvez nos vendredis thématiques. Le wokisme aujourd'hui, ce terme de plus en plus présent dans le débat public, le débat politique. Qu'est-ce que c'est exactement? On en parle ce matin sur Europe 1. À 6h40, votre interview est quoi, Alexandre?
La voiture électrique pour tous. Vous vous souvenez que c'était une promesse du candidat Macron. Une offre de leasing à 100 euros par mois va être proposée aux revenus modestes dès l'année prochaine. Alors comment ce dispositif va fonctionner? Où en est d'ailleurs la voiture électrique en France? On posera toutes ces questions à 6h40 à Xavier Oran de Mobilience. Il représente les métiers de l'automobile.
Les trois articles du pressing à 6h10.
Et à 6h20, votre partition, Ombline.
L'album Nebraska de Bruce Springsteen.
Everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair pretty, and make me tonight.
Un ovni dans le répertoire du boss, des chansons au récit sombre, une orchestration dépouillée, guitare, harmonica, un chef-d'œuvre sorti le 30 septembre 1982. Rendez-vous dans 20 minutes.
Vous êtes sur Europe 1. Bon réveil.
Europe Matin.
Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
C'est un territoire français où les meurtres et le trafic de drogue explosent. La Guyane, où une partie du gouvernement participe aujourd'hui aux assises de la sécurité. L'envoyé spécial d'Europe 1 nous emmène en patrouille avec la BAC. Même pas peur, voilà ce que répond l'opposition à Emmanuel Macron quand le chef de l'État évoque la dissolution de l'Assemblée nationale, une possibilité qui réjouit même la NUPES et le Rassemblement national. On pensait que le pire était passé, l'ouragan Ian a repris des forces, il se dirige droit sur la côte est des États-Unis. Il a fait au moins 12 morts hier en Floride. Le journal de 6 heures, présenté par Roman Hockey. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. C'est un territoire français où les homicides sont 10 fois plus nombreux que la moyenne nationale. On vous emmène en Guyane ce matin sur Europe 1, une collectivité d'outre-mer située en Amérique du Sud à 7000 km de Paris.
Et c'est là que trois ministres sont arrivés hier soir. Justice, Intérieur, Compte public, Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin, Gabriel Attal. Ils participent aujourd'hui aux assises de la sécurité.
Une sécurité qui fait défaut justement à Cayenne, la capitale. L'envoyé spécial d'Europe 1, William Molinier a embarqué dans la voiture d'une patrouille de la BAC.
Ils viennent tout juste d'enfiler leur gilet pare-balles. Les deux équipages de la BAC sont déjà appelés en renfort. Direction les faubourgs de la ville pour une rixe à l'arme de poing. Sur place, un homme alcoolisé tient des propos décousus. Il est appréhendé par Dom, le chef de la BAC nuit de Cayenne.
L'arme, on ne l'a pas retrouvée parce que avant notre arrivée, il a certainement dû la donner à un autre jeune du quartier. Acquérir une arme à Cayenne, ce n'est pas chose difficile. C'est quelque chose de coutumier, que ce soit des armes à feu ou des armes blanches.
Il y a quelques jours, les policiers de Cayenne ont pour la première fois eu affaire à du 7,62 mm, un calibre de guerre chargé d'ordinaire dans des kalachnikovs.
Ça vous traverse de part en part si vous n'avez pas une protection, et même avec une protection, ça peut engager des dommages irréversibles.
Dom tient à nous montrer le quartier chinois que les habitants surnomment d'eux-mêmes Chicago en raison de la forte criminalité. Ici, Brésiliens, Surinamais, Haïtiens et Caribéens se côtoient. Le trafic de cocaïne fait partie du paysage.
Le village chinois, il y a une grande concentration aussi de craqués. Les cambriolages, les vols à la roulotte, les agressions.
Outre les armes et la drogue, la Guyane fait face à des problèmes massifs d'immigration. Impossible de contrôler les 1240 km de frontières sur les hauteurs de Cayenne. Les clandestins s'amassent dans des bidonvilles, venant paupériser une population déjà très fragile. 41% des foyers allocataires guyanais perçoivent le RSA, contre 8 au niveau national. Cayenne, William Molinier, Europe 1.
Une destination moins lointaine pour Emmanuel Macron qui sera aujourd'hui à Pau dans les Pyrénées-Atlantiques chez François Bayrou, le maire de la ville qui a le sourire, Roman.
Oui, cet allié du président a obtenu gain de cause sur la réforme des retraites. Pas de passage en force, mais de nouvelles discussions avec les oppositions, méthode actée hier par le gouvernement. Une mascarade, je cite, pour la France insoumise qui ne participera pas en revanche aux discussions.
Cela démarre mal donc pour l'exécutif qui se réserve d'ailleurs une option au cas où le dialogue échouerait.
Oui, une dissolution pure et simple de l'Assemblée nationale. Réponse de l'opposition, même pas peur Alexis de la Fontaine.
Oui, cette possibilité réjouit les oppositions, persuadées qu'elles seront les grandes gagnantes d'une dissolution. À gauche, Jean-Luc Mélenchon, présent à la manifestation contre la réforme des retraites, reste très serein.
Moi, je prends pas ça pour une menace. À l'inverse, c'est une opportunité. C'est surtout pour les macronistes que c'est une menace. Ils sont peut-être pas rendu compte du point où en est le pays. Les gens n'en peuvent plus, donc ils détestent parce qu'ils comptent sur eux pour régler les problèmes, ils n'en règlent aucun.
Et il n'est pas tout seul, toute la gauche est convaincue qu'une dissolution donnerait une majorité à la NUP. Même tonalité au Rassemblement National, Marine Le Pen répond avec malice, chiche, car avec 89 députés élus en juin dernier, Jean-Philippe Tanguy pense même pouvoir faire mieux.
Nous, on n'a jamais peur de retourner devant les électeurs. Je ne vois pas pourquoi on perdrait les députés, je pense même que nous en gagnerons.
Enfin, cette menace de dissolution pèse sur le MoDem, mais effraie surtout les Républicains. Très silencieux depuis cette annonce, car à droite, le risque est évident, faire réélire très peu de députés.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. 6h04, il se dirige droit vers le sud-est des États-Unis. Ian a repris des forces au point d'être recatégorisé comme ouragan. Les vents et les pluies diluviennes ont déjà balayé la Floride hier. Les images font la une du New York Times ce matin. Au moins 12 morts à ce stade, un bilan qui pourrait s'aggraver d'après le président américain Joe Biden.
This could be the deadliest hurricane in Florida's history.
Cela pourrait être l'ouragan le plus meurtrier de l'histoire de la Floride. Les chiffres ne sont pas encore clairs, mais selon les premiers rapports, il pourrait y avoir énormément de pertes humaines. Il y a beaucoup d'inquiétudes, mais le travail fait pour sauver les villes, villages ou comtés, leurs ports, leurs ponts, etc. est incroyable.
Une déclaration du président américain Joe Biden au centre de contrôle des ouragans. Et si la Floride reste malheureusement habituée à ces tempêtes, le réchauffement climatique augmente leur fréquence, leur intensité. C'était le cas aussi chez nous cet été avec les feux en Gironde.
Et des incendies désormais tous éteints. L'heure est maintenant au bilan après cette saison catastrophique pour nos forêts.
Oui, comment replanter? Quelles essences choisir? Et comment reconstruire les maisons calcinées? Sur ces questions, la préfète de la Gironde, les pompiers aussi, ont apporté quelques réponses hier. Ils ont répondu aux correspondants d'Europe 1 dans la région, Stéphane Place.
Pas question, par exemple, de remettre en cause la promesse du président de la République. Oui, les 5 campings de la dune du Pilat seront bien reconstruits et pourront rouvrir dès l'été prochain. Mais attention, insiste la préfète de la Gironde, Fabienne Bussiau, dans le cadre d'obligations strictes.
Pourquoi pas des constructions en provisoire, en tente, mais on n'a rien contre. Le tout, c'est que projet par projet, on leur dira ça c'est possible, ça c'est pas possible. Vous savez qu'on avait une progression tous les ans, ils devaient retirer tant de bungalows. On avait su un sujet avec un qui ne le faisait pas. Il n'est pas question. Ils devront remettre d'un nombre d'emplacements qui sera le nombre prévu. Ils ne pourront pas aller au-delà.
De leur côté, les pompiers de la Gironde, que dirige Marc Vermelaine, réfléchissent eux à l'évolution de leur matériel.
Une des particularités, c'est que les feux sont arrivés beaucoup plus rapidement en cime. Donc on va revoir le cahier des charges de nos camions.
Il faut avoir une capacité de propulsion de l'eau.
Hauteur et puissance. On a vu qu'on a utilisé les moyens de la base aérienne, des moyens qui normalement sont utilisés pour la lutte contre les feux d'aéronef. Et on a vu toute leur efficacité dès lors où en fait on avait des feux qui arrivaient très rapidement en cime avec une violence qui était inouïe.
Incendie hors normes, facture hors normes. Elle s'élève déjà, selon les estimations actuelles, à 11 millions d'euros pour le service départemental d'incendie et de secours de la Gironde.
Stéphane Place, correspondant d'Europe 1 en Gironde. 6h07 sur Europe 1. Cette fois, on a une preuve de l'eau sur Mars, des traces même récentes qu'on a découvert grâce à un petit robot explorateur chinois. Alors quand je dis récent, c'est quand même à l'échelle de la galaxie, on s'entend. Ce petit robot, il est arrivé sur la planète l'année dernière et il commence à livrer ses secrets à Pékin. La correspondance de Sébastien Lebelzik pour Europe 1.
16 mois après s'être posé sur Mars, le rover chinois Zhurong continue son exploration de la planète rouge. Il a parcouru un peu moins de 2 km et accumulé déjà des masses de données. Certaines suggèrent que de l'eau aurait existé sur Mars il y a 1 milliard d'années. Les précédentes études estimaient que l'eau martienne avait disparu il y a environ 3 milliards d'années. Liu Yang est chercheur à l'Académie chinoise des sciences.
S'il y avait de l'eau, nous pouvons supposer que l'atmosphère était adaptée à l'origine de la vie, ou que les conditions météorologiques sur Mars étaient favorables au cours du dernier milliard d'années.
Les minéraux hydratés n'avaient pas été détectés par les précédents orbiteurs. Les données de Zhurong sont donc très importantes. La Chine investit des milliards d'euros dans son programme spatial. Le pays a posé pour la première fois en 2019 un engin sur la face cachée de la Lune. En 2020, la Chine a rapporté des échantillons de Lune et l'année suivante a fait atterrir ce petit robot sur Mars. Elle prévoit maintenant d'envoyer des hommes sur la Lune à l'horizon 2030. À Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
Le Brésil va-t-il changer de président ce dimanche? Sur les affiches, deux favoris. Un ancien président socialiste, Lula, favori des sondages, contre son successeur d'extrême droite, Bolsonaro, qui peut compter sur un soutien de taille. Le joueur de football, Neymar, a publié une vidéo hier soir sur les réseaux sociaux. Voilà, vote et confirme, c'est Bolsonaro. Ce sont les paroles de la musique que fredonne Neymar, justement, avec quelques pas de danse sur cette vidéo. Alors Bolsonaro reste à la traîne dans les sondages derrière le grand favori Lula. Troisième et dernier débat en ce moment entre les deux candidats.
L'engagement politique des sportifs, c'est aussi un sujet qui fait réagir chez nous en France.
Et oui, surtout à moins de 2 mois de la Coupe du Monde de football au Qatar. En début de semaine, la ministre des Sports a déclenché une polémique avec une phrase. Élever le niveau de conscience des joueurs de foot, ça me semble souhaitable, mais sans leur en demander trop. Fin de citation. Propos d'Amélie Oudéa-Castéra qu'elle a voulu clarifier. Elle a choisi Europe 1 où elle était l'invitée de Virginie Fulpin hier soir.
Ces propos ont été mal interprétés par certains. Quand certains s'expriment sur la situation au Qatar, non seulement je trouve que c'est leur liberté, mais je trouve que c'est même important. Quand ils prennent des initiatives du type du brassard One Love, de mon point de vue, c'est à saluer et je l'ai fait. Je trouve que c'est très sain et ça va dans le bon sens complètement. Maintenant, quand on se met à juger, jauger, comparer, évaluer les équipes, commencer à dire qu'on va soutenir l'un parce qu'il est plus engagé, là, je pense qu'on tombe dans quelque chose qui n'est pas le bon débat et qu'on met à nos sportifs une pression qu'il n'est ni de leur métier, ni de leur responsabilité d'assumer.
La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, invitée d'Europe 1 Sport, qui vous donne aussi rendez-vous ce soir pour la 9e journée de Ligue 1. Angers-Marseille, c'est à 21h.
Passionné de sport, toute l'actu pour bien parier sur Europe 1 avec Winamax. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
C'était le journal de 6h sur Europe 1. Merci Romain Noquet.
Il est 6h10 sur Europe 1. Dans une minute, le pressing.
Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
Allez, courage, on tient le bon bout. Le week-end approche. Très bon début de matinée en tout cas avec nous sur Europe 1 à 6h11. Il est temps d'ouvrir les journaux.
Oui, c'est le pressing. Et avec Dimitri Vernet qui nous rejoint, quel article avez-vous repéré dans la presse ce matin?
Eh bien, j'ai choisi un article du journal L'Équipe ce matin. Omblin, Alexandre, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais aujourd'hui, c'est la sortie du jeu vidéo FIFA.
Ah, mais bien sûr, ça m'avait échappé. Ah, vous le saviez, moi, ça m'avait échappé.
Voilà,
FIFA, aujourd'hui.
Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas FIFA, c'est tout simplement un jeu de simulation de football qui est, pour la petite anecdote, le deuxième bien culturel le plus vendu en France en 2022, avec plus de 1,59 million d'exemplaires vendus. Alors, outre la sortie du jeu aujourd'hui, si je vous en parle ce matin, c'est pour une autre raison. Parce que oui, les passionnés de ce jeu vidéo vont le découvrir aujourd'hui. Mais ce n'est pas tout, puisqu'ils vont découvrir le nouveau maillot de l'équipe anglaise de Chelsea. Alors instinctivement, on crie au génie en se disant mais quel coup de communication pour le club anglais. Sauf que non, il y a un couac.
Ah mince, il fallait pas.
Ce n'était pas du tout calculé.
Ah, c'était
exactement.
Pas prévu. Bon.
Le club londonien avait prévu de dévoiler ce maillot bien plus tard dans
d'accord.
la saison. Une grosse erreur de commise.
Ça s'appelle un couac.
Exactement, par Electronic Arts, le créateur de FIFA 23, qui ne sait pour le moment pas exprimé sur le sujet, ce qui peut se comprendre hein, puisqu'ils ont bien enfilé eux le maillot de la loose de la défaite, le troisième maillot de Chelsea
de la loose.
Dévoilé par erreur dans FIFA, c'est-à-dire dans l'équipe ce matin.
Mais ils auraient pu se parler, non, en disant.
Et pourtant, Chelsea est partenaire avec Electronic Arts dans le jeu FIFA 23.
Hein. Bon. Un petit problème de communication quand même.
Mais finalement, c'est peut-être un coup de com caché.
Un bon petit coup de buzz pour la sortie du jeu vidéo.
C'est
en tout
ça.
Cas.
Et pour Chelsea, pour le futur maillot qui sortira.
Bon. Et pour FIFA.
Exactement.
Pour qu'est-ce qui vous a arrêté ce matin?
C'est un film que vous irez peut-être voir au cinéma ce week-end. On en a parlé avec Laurie Choleva mercredi. Il est sorti donc il y a 2 jours, Sans filtre, de Ruben Östlund, Palme d'or à Cannes. Dans Sans filtre, on fait la connaissance d'un couple de mannequins et influenceurs invités sur un yacht pour une croisière de luxe. Mais rien ne va se passer comme prévu. Hein, vous l'avez compris, la croisière ne va pas vraiment s'amuser. Pour tourner son film, cette satire des classes, eh bien, le réalisateur suédois a choisi comme décor un palace sur mer bien connu de la jet set et des plus grandes stars. Il s'appelle le Christina O, c'est l'ancien yacht d'Aristote Onassis, l'endroit fréquenté par les plus grands de ce monde, par les plus riches. Vanity Fair raconte l'histoire du Christina O. C'est un petit bijou hein, de l'armateur grec, l'époux de Jacqueline Kennedy.
Bah oui.
Il l'achète en 1954 pour... 34 000 $. C'est pas grand chose en fait.
Pas énorme.
Mais oui, parce que c'est une frégate militaire qui avait notamment servi lors du débarquement et il lâche donc une enveloppe de 4 000 000 $ pour transformer la coquille de noix, si je peux me permettre, en un temple de la démesure avec sa dizaine de cabines, sa grande cheminée, sa piscine en mosaïque qui se transforme en piste de danse. Même vous, Alexandre, dans votre appartement, vous n'avez pas la piscine qui se transforme en piste de danse.
Malheureusement, non.
Il paraît qu'on peut mettre des homards aussi dedans.
Bon.
Ça fait aquarium à homards. Dans la suite d'Aristote Onassis, et ça je sais que ça va vous plaire Dimitri, la salle de bain est toute en marbre avec des robinets en forme de dauphin.
C'est bon,
c'est d'un
chic. Dauphin, c'est bon.
Mais oui, le milliardaire baptise le yacht comme sa fille, donc Christina O. Le Christina O est la plupart du temps amarré dans la baie de Monaco. C'est à bord que Grace Kelly et le prince Rainier organisent leur réception de mariage en 1956. On y croise Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor, Frank Sinatra qui va s'installer au piano. Des fêtes, de l'amour, des diamants. Winston Churchill il les rencontre en 1959. John Fitzgerald Kennedy, tiens, quelques années plus tard, Aristote Onassis séduira Jackie Kennedy sur ce même yacht. Il l'épousera sur ce même yacht en 1968. À sa mort, le bateau sera légué au gouvernement grec. Il a été un petit peu abandonné pendant quelques années. Il a été restauré par un ami de la famille. Alors, je vous le dis comme ça, c'est pour une bouchée de pain. Il se loue 650 000 dollars la semaine.
Oh, oh oui.
Exciting and new. Alors on a ajouté les mouettes.
Personne n'est inclus, j'espère, à ce prix-là, non?
J'espère aussi.
Oui.
Avec les robinets en dauphin.
650 000 la semaine.
Il n'y aura peut-être pas les homards dans la piscine. Hein.
Non.
Mais c'est peut-être en plus all inclusive. Je me renseignerai pour vous. L'histoire du Christina O, c'est le luxueux yacht qui sert de décor au film Sans filtre, sorti en salle mercredi. Et c'est sur le site de Vanity Fair. Ça vous a plu. À vous, Alexandre.
Mais c'est vendredi, les amis.
Je crois, oui. Ah oui.
Chouette, le week-end approche. Youpi. Si on allait se faire un petit resto.
Ah, alors, formidable.
Bah oui, alors, bon, parfois déjà, c'est là que les ennuis commencent. Hein. Alors, où on va ce soir? On fait cuisine terroir, on fait pizza, on fait japonais, ça peut durer longtemps.
Mais c'est ça, choisir le restaurant.
Toute la liste, bon, déjà.
Ok, alors on est d'accord. On trouve une table, on s'installe, le menu arrive, et là, cauchemar. Impossible de se décider. Le serveur passe, il repasse. Oui, encore 2 minutes, s'il vous plaît. Ça dure des plombes comme ça. On finit par poser le doigt sur un plat au hasard, la mort dans l'âme. Le plat arrive, on regarde à côté. Ah, j'aurais dû prendre ça.
Ah, flûte.
Et oui, parce que c'est dans ces cas-là, c'est toujours meilleur dans l'assiette du voisin. Bien vous sûr. Savez comment ça se passe. Et bien, tout ça, c'est fini. Une entreprise de San Francisco a mis au point une IA, une intelligence artificielle, qui se propose de choisir pour vous le menu idéal. Alors, il faut pour ça que le resto soit équipé du système qui va vous scanner de la tête aux pieds. Quelle est votre taille, votre âge, votre humeur du jour? Tout est paramétrable en fait. Et alors en fonction de tous ces paramètres, le logiciel va vous retirer une énorme épine du pied. Il va savoir vous dire tout de suite, bon mon petit gars, ma petite dame, aujourd'hui ce sera saucisse purée ou potée au chou.
D'accord.
Alors il y a de bonnes chances que ce système arrive en France parce que plusieurs milliers d'établissements américains l'ont déjà adopté. De là à penser que certaines marques seraient tentées de s'en servir pour manipuler le consommateur à l'arrivée au resto. Il y a un pas que le concepteur de cette intelligence artificielle refuse de franchir. Lui, il dit non, nous, on fournit l'outil. Après, ce qui se passe au resto, ce n'est pas de notre responsabilité. Est-ce que vous laisseriez une IA, une intelligence artificielle, choisir votre menu au restaurant? C'est à lire ce matin sur Slate.fr.
Alors, si on me propose une salade, je ne sais pas comment je dois le prendre.
Mais c'est ça, en fait, ça se dépend du plat.
Oui. Non, mais il y a beaucoup de paramètres. Voilà. Il y a pas que, si vous parlez de la ligne, il n'y a pas que ça qui rentre en
compte. J'imagine. Sinon, vous, avec vos amis, vous prenez plein de plats différents et puis vous piquez dans les plats des autres.
Voilà, on se fait en mode mezzé, voilà, comme ça.
Merci beaucoup Alexandre, c'était le pressing et on se retrouve dans quelques instants avec la partition de Bruce Springsteen sur Europe 1.
Très bon réveil, 6h20 sur Europe 1, votre partition Omblin, un monument du rock fait aujourd'hui ses 40 ans. C'est aussi l'une des créations les plus personnelles, les plus énigmatiques de Bruce Springsteen. Vous nous parlez de son album Nebraska.
Et je vous invite tout de suite à tendre l'oreille, ce disque qui surgit de nulle part le 30 septembre 1982, en plus d'être très différent de tout ce qu'il a fait avant et même après. Eh bien, à l'origine, c'est une démo enregistrée sur une cassette par le boss tout seul. From the town of Lincoln, Nebraska. With a sawed-off 14 on my leg.
Alors, ça surprend presque ce son, parce qu'à l'époque, ça fait 10 ans déjà que Springsteen est plutôt dans le rock énergique et puissant.
Oui, 10 ans qu'il se construit une carrière de showman fougueux. Nebraska est un retour aux racines, à l'essentiel. Chaque chanson raconte à la première personne l'histoire de personnages en marge de la société, des voyous, des meurtriers. Dans son autobiographie Born to Run, Bruce Springsteen raconte s'être laissé inspirer par ses déambulations dans les rues de la petite ville du New Jersey où il a grandi, s'être laissé guider par Bob Dylan ou dit Guthrie par les films de Terrence Malick. Je voulais des récits sombres, dit-il. Je voulais qu'on entende mes personnages penser, qu'on ressente leurs réflexions et leurs choix.
En fait, chaque chanson, elle fonctionne comme un petit scénario.
Oui, c'est tout à fait ça. Et Sean Penn se contentera d'ailleurs d'ajouter des images au titre Highway Patrolman qui sert de trame à son film The Indian Runner en 1991. My name is Joe Roberts. I work for the state. I'm a sergeant out of Burnville, barracks number 8. Vous remarquerez le grain, le souffle de la musique. C'est assez dingue.
Alors Springsteen, quand on écoute, il espère toucher son auditeur au cœur. Hein. C'est un peu comme si Nebraska était en fait un recueil de poésie. C'est un sentiment accentué d'ailleurs par le côté très dépouillé de l'orchestration.
Là, juste la guitare, on l'entend. Parfois un harmonica, on l'a entendu un petit peu plus tôt. Pourtant, quand il élabore le disque à l'aide d'un simple magnétophone à cassette, ce qu'il a toujours eu l'habitude de faire, c'est pour simplement présenter son travail à ses musiciens. Bruce Springsteen se rend donc naturellement en studio. Il enregistre cette fois avec son groupe. Les chansons sont ensuite remixées. Je n'avais réussi qu'à abîmer les premières versions, dit-il. La bonne version, ce n'est finalement rien d'autre que celle qu'il trimballe dans sa poche arrière de jeans depuis plusieurs jours, sans aucune précaution, cette fameuse cassette. Well, I had the carburetor, baby, clean and check. With her line blown out, she's roaming like a turbo jet. Propped her up in my backyard on concrete blocks for a new budget.
bien sûr, comme on ne peut rien refuser à celui qui, depuis 10 ans, vend des millions d'albums à travers le monde, et bien sa maison de disques lui donne le feu vert.
Voilà, la cassette devient un disque acoustique. La Columbia n'est pas habituée, pas vraiment rassurée non plus, d'autant que Bruce Springsteen refuse d'en assurer la promotion. Les bandes de Nebraska sont simplement nettoyées en studio. Sur les 17 pistes, il n'en reste que 10. La pochette de l'album est aussi sinistre que les récits qu'il renferme. Le boss ne fait qu'une seule concession, il accepte qu'un clip soit tourné pour la chanson Atlantic City, une vidéo en noir et blanc où on ne voit que des bâtiments, des rues et des passants. Et pas question qu'il apparaisse à l'image. Well, they blew up the chicken man in Philly last night. Now they blew up his house too. Down on the boardwalk they're getting ready for a fight. Gonna see what them racket boys can do. Now there's trouble busting in from out of state, and the DA can't get no relief. Gonna be a rumble out on the promenade, and the gambling commission's hanging on by the skin of its teeth. Well, now everything dies, baby, that's a fact. Maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, fix your hair. And meet me tonight in Atlantic City. Well, I got a job and tried to put my money away, but I got debts that no honest man can pay. So I drew what I had from the Central Trust, and I bought us two tickets on that Coast City bus. Baby, everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Put your makeup on, put your hair up, baby, and meet me tonight in Atlantic City. It's getting cold, and maybe everything dies, baby, that's a fact. But maybe everything that dies someday comes back. Atlantic City, extrait de l'album Nebraska qui fête ses 40 ans aujourd'hui, et on vient de l'apprendre, Bruce Springsteen sera de retour le 11 novembre avec un album de reprise des grands classiques de la musique soul et rhythm and blues baptisé Only the Strong Survive. Il sera en tournée américaine et européenne en 2023. Deux concerts sont prévus pour le moment à Paris, à la Défense Arena, les 13 et 15 mai.
Merci Amblin pour ce joli petit tour de scène avec le boss sur Europe 1. 6h26, très bon réveil à tous. À suivre l'interview écho, on va parler de ce coup d'accélérateur à la voiture électrique voulue par Emmanuel Macron. Dès l'année prochaine, les ménages modestes pourront rouler en électrique pour 100 euros par mois. Explication à 6h40 avec Xavier Oran de Mobiliance, le syndicat des professions de l'automobile.
Et avant 7h, la revue de presse internationale avec les correspondants d'Europe 1 et l'innovation avec Anissa Mbida. Tout de suite.
Europe Matin.
Alexandre Lemaire et Amblin Roche.
À la une ce matin, trois ministres en Guyane aujourd'hui. Les assises de la sécurité sur un territoire français entouré par le Suriname et le Brésil. Immigration, insécurité, trafic. La rédaction d'Europe 1 est à Cayenne pour comprendre la situation sur place et ses conséquences sur l'Hexagone. Le trafic de cocaïne avec Paris est permanent, vous allez l'entendre. Les vendredis thématiques d'Europe 1, comme chaque semaine. Aujourd'hui, coup de projecteur sur la pensée woke. Comprendre, être éveillé. Une pensée qui infuse dans la société, mais qui était dénoncé par une association étudiante de la Sorbonne. Dans ce journal également, les Pyrénées attendaient Emmanuel Macron, le président, chez son allié François Bayrou à Pau aujourd'hui, sur fond de dissonance entre les deux hommes sur la réforme des retraites.
Europe 1.
Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Comment sortir la Guyane de la spirale de la violence et du trafic de drogue? Europe 1 est à Cayenne aujourd'hui, tout comme trois ministres, Gérald Darmanin, Gabriel Attal et Éric Dupond-Moretti. Ils participent aux assises de la sécurité dans une collectivité gangrénée par la violence. On y déplore plus de 11 homicides pour 100 000 habitants, contre à peine plus d'un pour 100 000 dans l'Hexagone.
La Guyane, plus grand territoire français outre-mer, bordé par le Suriname et le Brésil, est porte d'entrée de la cocaïne en France.
Oui, chaque année, 4 tonnes de poudre blanche arrivent par les vols Cayenne-Paris dans l'Hexagone. Depuis 3 mois, les mules qui transportent moins d'un kilo 5 de cocaïne sont libérées. Elles n'écopent que d'une interdiction de prendre l'avion à Cayenne avec inscription au fichier des personnes recherchées. Une expérimentation judiciaire qui prend fin aujourd'hui. Son objectif, c'était de diminuer la charge du trafic de stupéfiants sur les tribunaux qui est de plus en plus lourde. Le reportage de Caroline Baudry.
Quelqu'un qui arrive avec des ovules plein le ventre, je peux vous garantir qu'elle n'est pas sereine, hein, parce que s'il y a un ovule qui craque, c'est l'overdose.
Ce genre de scène est quotidienne pour Olivier Laury, policier aux frontières à l'aéroport de Cayenne. Chaque jour, en moyenne, 3 avions décollent, direction Paris. Des dizaines de mules embarquent dans chaque appareil. La cocaïne est cachée dans leurs affaires ou ingérée sous forme d'ovules, de grosses gélules remplies de poudre blanche. Une à 4 mules par vol sont interpellées par son équipe.
Quand on lui pose des questions basiques de contrôle de police, que la personne ne sait même pas où elle va en métropole, on a déjà un gros doute. Dépistage urinaire, une prise de sang et un IRM. Une fois que la personne elle est interpellée, ils lui fournissent un traitement pour qu'elle expulse les ovules.
La méthode des narcotrafiquants, le recrutement de rue et l'appât du gain. La moitié des Guyanais vit sous le seuil de pauvreté, alors gagner jusqu'à 8000 euros en 8 heures de vol devient pour certains une évidence. Morgane Fournier est avocate à Paris. Elle défend des passeurs arrêtés à leur arrivée en métropole.
Des très jeunes majeurs qui sont sans emploi. Il y a eu une période où c'était des femmes enceintes, une façon de dissimuler justement le produit ou en tout cas le sentiment qu'on viendrait moins les contrôler. Les gens qui généralement sont dans une situation financière extrêmement précaire, voire qui sont parfaitement pris à la gorge.
Mais face à l'ampleur du phénomène, l'abandon des poursuites est une aberration selon Yvan Goua. Elle est porte-parole de l'association Trop Violent qui sillonne la Guyane pour empêcher les jeunes de céder aux trafiquants.
C'est du sabotage. On a toujours demandé des peines qui soient plus lourdes, qui puissent être compréhensibles pour un jeune et qui puissent dire aux trafiquants justement, non, je ne veux pas le faire parce que ça va me coûter cher.
L'expérience qui avait provoqué un tollé s'arrête. Sur place, des moyens supplémentaires sont réclamés pour contrôler davantage de voyageurs à l'aéroport et poursuivre les mules dans les tribunaux.
Caroline Baudry.
Les thématiques européennes, comme chaque vendredi, aujourd'hui, on essaie de mieux comprendre ce que signifie la pensée woke.
Traduisez être éveillé, c'est-à-dire particulièrement sensible aux questions d'identité des personnes transgenres, des différentes religions, origines, couleurs de peau, avec une volonté forte de reconnaître la différence de chacun. Mais pour certains, cette nouvelle façon de voir le monde menace aussi la laïcité. Exemple à la Sorbonne à Paris, Dernier Espoir est une association apolitique qui défend une université laïque. Les militants woke l'accusent de racisme et d'islamophobie. Louise Salé a rencontré deux de ses adhérentes.
Sur des bancs disposés en arc de cercle, l'emblématique fosse de Tolbiac, Lydia et Floriane discutent. Lydia, à 18 ans, elle vient tout juste de commencer sa licence de philosophie et porte déjà une étiquette.
On dit « toi t'es de droite, toi t'es fasciste ». Il y a des étudiants qui mettent dans le même panier racisme et critique d'une religion. Les jeunes ne savent pas ce qu'est la laïcité, ce qu'elle représente. Ils ne savent pas aussi que la laïcité les protège.
Et cela va très loin pour la présidente de l'association, Floriane, 20 ans. Elle est victime de cyberharcèlement et en procédure judiciaire.
Ça, c'est amplifié par des messages sur les murs des WC très agressifs à mon égard. Il y avait notamment Floriane, l'islamophobe, dégage, notamment lorsque j'ai pris la défense de Mila. Et en fait, c'est cette idée de on ne doit pas critiquer, on ne doit pas offenser. Et c'est la base même du wokisme.
Elle déplore également le silence des profs.
J'ai un souvenir d'un cours qui s'intitulait « Comment contourner la censure ». L'enseignant voulait aborder le livre de Michel Houellebecq qui s'appelle « Plateforme ». Et en fait, l'enseignant a pris toutes les précautions du monde à argumenter le fait que c'est un objet d'étude intéressant, mais que ça ne reflète pas ses convictions. Il y avait un sentiment de gêne et de malaise chez lui.
Le projet de l'association de rebaptiser un amphithéâtre Charb est au point mort depuis plus d'un an. Elle soupçonne l'administration de vouloir le freiner par peur des représailles.
Reportage signé Louise Salé.
Entre 118 000 et 200 000 manifestants hier pour la première mobilisation contre la réforme des retraites et pour le pouvoir d'achat.
Avec près de 200 rassemblements en France, dont un à Pau, 1200 manifestants. C'est là que se rend Emmanuel Macron aujourd'hui. Le chef de l'État va inaugurer un centre culturel dans le fief de son allié François Bayrou. Visite a priori sous la pluie qui intervient Alexandre Chauveau alors que le fondateur du Modem réclamait davantage de concertation sur la question des retraites.
Oui, et il a été en partie entendu, même si la position de François Bayrou sur les retraites a fait l'objet de vives remontrances mercredi soir à l'Élysée. Emmanuel Macron a finalement tranché. Le texte devra être présenté en décembre pour un vote d'ici la fin de l'année ou le début de l'année prochaine. 3 mois de concertation donc, comme un gage donné sur la forme par le président à François Bayrou, qui n'hésite pas à marquer ses désaccords. Le patron du MoDem entend bien peser sur ce quinquennat, conscient, comme Édouard Philippe, que la majorité relative à l'Assemblée renforce son poids politique. Lui qui a échoué 3 fois à l'élection présidentielle, jouit d'un rôle de premier plan auprès du chef de l'État. Nommé secrétaire général du Conseil national de la Refondation, toujours haut commissaire au plan, le Béarnais aime ironiser en privé sur l'âge qu'il aura en 2027. 76 ans, soit 2 ans de moins que Joe Biden lorsqu'il a été élu à la Maison-Blanche. Manière de montrer qu'il n'a pas totalement renoncé à ses ambitions. La visite de ce matin devrait confirmer qu'avec Emmanuel Macron, la relation reste amicale mais franche.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
Europe 1, 6h37. Kherson et Zaporijja seront officiellement russes cet après-midi. Vladimir Poutine a signé le décret d'indépendance hier soir. Cet après-midi, donc, grande fête à Moscou pour célébrer l'extension du pays.
Oui, les États-Unis ont été clairs. Hein. Jamais, 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 ils ne reconnaîtront ces nouvelles frontières. Le Conseil de sécurité des Nations Unies examine aujourd'hui une résolution condamnant les référendums russes. Le veto de Moscou devrait empêcher le vote.
L'actualité à l'étranger, c'est aussi le bilan catastrophique en Floride, après le passage de l'ouragan Ian hier.
Au moins 12 morts, plus de 2,3 millions de foyers et commerces privés d'électricité. Ce pourrait être l'ouragan le plus meurtrier de l'histoire de la Floride, affirme Joe Biden. Mais la situation aurait pu être encore pire sans les évacuations préventives, Alexis Guilleux.
Oui, notamment sur le littoral du sud-ouest de la Floride, ravagé par l'arrivée de l'ouragan, des destructions bibliques, selon les mots du gouverneur, dans une région qui était en plein développement. Le comté de Lee a vu sa population doubler depuis les années 90. Le marché immobilier, bien moins cher que du côté de Miami, était en pleine expansion. Et aucun ouragan n'avait directement touché cette zone depuis près de 20 ans. Ian a tout balayé, confie sur CNN le maire de Fort Myers, Kevin Anderson.
C'est un centre-ville que nous avons mis plusieurs décennies à reconstruire et à revitaliser. Et je m'inquiète de voir ces commerces fermer définitivement. On perdra cette ressource économique et ce n'est pas bon non plus pour le tourisme.
Cette reconstruction sera également très compliquée pour ceux qui ont tout perdu, d'autant plus que les assurances contre les catastrophes naturelles sont loin d'être répandues en Floride. Moins de 20% des habitants dans la zone d'évacuation étaient assurés contre le risque d'inondation, selon un cabinet indépendant. Et les Américains le savent, le soutien de l'État ne sera pas suffisant pour les aider à retrouver leur vie d'avant.
Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Merci Fanny Marceau, très bon réveil sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez, il est 6h38. Le leasing Macron arrive. C'est la promesse de rouler en voiture électrique pour 100€ par mois. Dispositif sous conditions de ressources. On en parle dans un instant avec Xavier Oran de Mobiliance. Il représente les métiers de l'automobile. A tout de suite.
Europe Matin. Nous sommes le vendredi 30 septembre à 6h41. Les titres, Alban Le Prince.
Nos reporters européens sont en Guyane aujourd'hui à l'occasion des assises de la sécurité. Dès hier, le garde des Sceaux a annoncé l'expérimentation en janvier d'une brigade de soutien d'urgence pour soulager les tribunaux. Vendredi, thématique sur Europe 1. On s'intéresse à la pensée woke. Qu'est-ce que c'est? Comment s'exprime-t-elle en France? Toute la journée sur notre antenne, on va tenter d'y répondre à travers différents reportages et interviews. C'est une mascarade. La France insoumise refuse de participer au cycle de concertation sur la réforme des retraites annoncée par Elisabeth Borne. Toutefois, Emmanuel Macron a prévenu en coulisses, s'il y a motion de défiance, ce sera la dissolution de l'Assemblée.
Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
La Caisse d'Épargne vous présente l'interview Éco. Caisse d'Épargne, vous êtes utile.
C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. La location de voiture à 100€ par mois est inscrite dans le projet de budget 2023. C'est un dispositif de leasing social. Il sera accessible sous condition de revenus. Votre invité ce matin, Alexandre, c'est Xavier Oran, délégué général de Mobiliance, l'organisation patronale des métiers de la distribution et des services automobiles.
Bonjour Xavier Oran.
Bonjour Monsieur Lemaire.
Donc, dès l'année prochaine, en principe, hein, les Français à revenus modestes vont pouvoir rouler en voiture électrique pour 100€ par mois selon la formule du leasing. On rappelle en deux mots en quoi consiste le leasing?
Le leasing social est un dispositif relativement classique qui consiste, pour être très simple, très direct, à baisser le plus possible le loyer mensuel pour viser en fait deux objectifs principaux. D'une part, accélérer le renouvellement du parc automobile dans un contexte où nous devons impérativement réussir une transition écologique. Et puis d'autre part, faire l'alliance entre cette transition écologique et la soutenabilité sociale, c'est-à-dire de populariser l'acquisition de véhicules électriques par le plus grand nombre de Français.
Quand on dit 100 euros par mois, c'est tout compris, entretien compris.
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est un chiffre qui a été cité dans le cadre de la campagne électorale, il y a maintenant quelques mois, par l'actuel président de la République. Et c'était un dispositif qui faisait déjà précédemment l'objet d'un certain nombre de réflexions au niveau du gouvernement précédent. Donc c'est pas en soi une surprise et ça vise à compléter également les dispositifs nombreux qui existent déjà. Je pense notamment au bonus automobile que vos auditeurs connaissent bien et plus encore la prime à la conversion qui a été un véritable succès sur le quinquennat précédent.
100 euros par mois, pour cette somme-là, on a quel modèle de voiture qui seront proposés ? Ce sera essentiellement des petites citadines électriques.
Oui, absolument, mais c'est tout le problème d'ailleurs parce que le problème est l'inflation que nous observons au niveau du prix des véhicules neufs en France depuis maintenant un certain nombre d'années. Il y a même plus que ça une décorrélation entre le pouvoir d'achat des Français et les prix des véhicules neufs pratiqués sur catalogue. Et cette tendance-là qu'on observe maintenant depuis une dizaine d'années, s'est sensiblement aggravée depuis 2018. Donc il y a un risque de décrochage très clair des classes populaires et des classes moyennes par rapport à la mobilité électrique dont il faut précisément assurer l'essor.
Est-ce que vous êtes prêt à répondre à la demande que va générer justement ce leasing social ? Est-ce que le secteur automobile est en mesure d'y répondre ?
Oui, bien entendu, le secteur automobile et puis l'ensemble de son écosystème, parce qu'il y a les constructeurs en tant que tels, il y a ce qu'on appelle leur captive financière, il y a bien entendu tous les réseaux commerciaux qui sont derrière et qui, dans un très grand nombre de cas, sur le préfinancement des dispositifs de bonus et de primes à la conversion. Donc l'ensemble du secteur sera évidemment au rendez-vous parce que c'est son intérêt justement d'apporter des solutions de financement plus innovantes pour permettre la soutenabilité économique et sociale de cette transition écologique. Et puis il y a bien entendu tous les organismes de crédit et les établissements bancaires qui seront probablement en mesure j'imagine, de produire un certain nombre d'offres, surtout qu'on est à quelques semaines du Mondial de l'automobile.
Si on parle, on va en parler. Oui. Si on parle de ce segment des petites voitures électriques, il y a un problème de maîtrise de la production quand même. La plupart d'entre elles sont pas made in France, elles sont fabriquées soit en Chine, soit en Europe de l'Est.
Vous mettez le doigt sur l'une des difficultés du dispositif. C'est qu'effectivement, ce dispositif, dans ses effets potentiellement pervers, ne doit évidemment pas viser à favoriser quelque part l'importation de véhicules qui sont produits ailleurs qu'en France, voire en Europe. Et pour prendre un exemple de véhicules, entre guillemets, low cost, de véhicules électriques neufs, je pense en particulier à la Dacia Spring. La Dacia Spring est fabriquée en Chine. Et par conséquent, si le leasing social, les critères, les véhicules éligibles à ce dispositif devaient se borner simplement à des modèles de ce type, il est à craindre que non seulement le bilan carbone total ne soit pas bon, mais que quelque part nous sions un peu plus la branche sur laquelle nous sommes, une partie de l'économie est assise.
Vous parliez de l'inflation, Xavier Oran, c'est pas la portée de tous aujourd'hui encore de passer à l'électrique. Le prix, bien sûr, de l'achat d'une voiture électrique, mais il y a également la question de l'autonomie. Où en est le maillage des bornes aujourd'hui en France ?
Alors, je vais répondre à votre question, mais je pense que la question du prix est vraiment un élément fondamental, parce que quand vous comparez aujourd'hui des modèles thermiques à des modèles à leurs équivalents électrique, le différentiel de prix est de l'ordre de plus de 50%.
Ben oui, c'est considérable, bien sûr.
L'ordre de grandeur, c'est considérable. Quand on regarde malheureusement, je dis malheureusement, la réalité de notre pays, vous avez à peu près 30% de nos compatriotes qui ont un revenu annuel inférieur à 20 000 euros. C'est ça la réalité. Et un dernier chiffre, parce que vos auditeurs, tôt ce matin, je ne vais pas les assommer avec trop de chiffres, mais malheureusement, à nouveau, 40% simplement des Français ne peuvent aujourd'hui consentir à une mensualité de 100 euros. C'est ça la réalité sociale.
60 000 bornes de recharge sur tout le territoire, c'est très insuffisant si on veut vraiment développer à grande échelle l'usage de
l'électrique. Oui, bien sûr, c'est insuffisant. Maintenant, il y a une task force qui est organisée au niveau du gouvernement depuis maintenant plusieurs mois, qui travaille bien, qui travaille en étroite coopération avec l'ensemble des composantes de la filière automobile, avec des nouveaux partenaires, je pense notamment à des groupes tels que EDF. Maintenant, effectivement, il y a une pression objective qui est très forte pour accélérer de manière très significative l'installation en bande de recharge publique sur l'ensemble du territoire. Oui. Au niveau européen, certains organismes experts ont évalué la nécessité d'implanter le nombre de bandes de recharge aux alentours de 7 millions de
7
bandes
millions.
De recharge. Ça correspond à des investissements dans la durée absolument considérable. Il faut bien en avoir conscience.
Ouais, on en est encore effectivement très loin. Merci Xavier Oran, délégué général de Mobilience, anciennement le Conseil national des professions de l'autonomie. Hein. Vous avez changé de nom très récemment, je crois.
On a changé de nom tout à fait récemment parce que Mobilience, c'est l'alliance des mobilités. Et c'est exactement ce qu'il faut, construire des nouveaux écosystèmes. Des nouveaux écosystèmes que vous verrez, je l'espère, dans le cadre du Mondial de Paris dans quelques semaines.
Merci à vous Xavier Oran.
C'était l'Interview Éco avec la Caisse d'Épargne. 3000 experts en région, aux côtés des professionnels et des entreprises. Caisse d'Épargne, vous être utile.
Europe 1, il est 6h49.
Europe Matin.
Omblin Roche et Alexandre Lemaire.
L'innovation avec Anissé Mbida à présent. Bonjour Anissé.
Bonjour Omblin, bonjour Alexandre.
Bonjour Anissé.
Bonjour à tous.
Alors plus que jamais, il va falloir se méfier de ce que l'on voit sur Internet. Il n'a jamais été aussi facile, Anissé, de fabriquer de fausses images et même de fausses vidéos.
Et tout ça, encore une fois, grâce au progrès de l'intelligence artificielle. Ah. Hier, on a même eu droit à deux grosses annonces qui ont complètement changé la donne. La première, c'est la mise à disposition du public d'un outil qui s'appelle DALL-E. Alors DALL-E, qu'est-ce que c'est ? C'est un logiciel qui est capable de générer n'importe quelle image simplement à partir de mots-clés. Par exemple, vous lui dites un ours en peluche qui jongle sur les ailes d'un avion et pof, il va vous faire plusieurs propositions parfaitement ressemblantes. Il peut même partir d'une photo existante ou de sa propre photo, une photo de soi-même, et demander moi, déguisé en cosmonaute dans une baignoire remplie de kiwis.
Vous avez de l'imagination, on y sait.
Non, je vous assure, c'est extraordinaire. C'est d'une simplicité enfantine, c'est gratuit et les résultats sont impressionnants.
Bon alors c'est quand même, on s'amuse, hein, mais c'est quand même inquiétant. Ça veut dire qu'on pourra fabriquer plus facilement des fake news.
Mais oui, c'est le problème. Alors je précise quand même que c'est un outil de recherche d'abord, qu'il est développé par OpenAI. C'est une ONG qui veut garantir que les progrès de l'intelligence artificielle feront d'abord le bien de l'humanité. Donc certains termes, certains mots sont filtrés. Ukraine par exemple, pour éviter de fabriquer des fake news. On ne peut pas non plus générer des images obscènes, mais vous avez raison, il y a des risques. C'est quand même plus facile de taper 2-3 mots-clés que de maîtriser Photoshop. D'autant qu'on vient déjà de passer à l'étape d'après, puisqu'un peu plus tard dans la journée d'hier, ce sont des chercheurs de Meta, cette fois, qui ont présenté un outil similaire, mais capable de générer des vidéos. Mmh. Et là encore, c'est presque magique, on tape un chien avec une cape de super-héros qui vole, et hop, on obtient une vidéo d'un labrador qui est en train de jouer les Superman. Ça s'appelle Make a Video. Je vous ai mis des exemples sur le hashtag Europe 1. Allez voir, c'est vraiment bluffant.
Alors là aussi, c'est disponible. Tout le monde peut l'essayer.
Alors non, pour l'instant, c'est réservé aux chercheurs. Ils sont bien conscients des dérives potentielles. Donc, ils travaillent sur des garde-fous avant de l'ouvrir au public. Il faut avoir conscience que tout ça n'est qu'un début. Avec l'intelligence artificielle, on vient clairement de passer un cap. Pour le meilleur, mais peut-être aussi pour le pire.
Et on continuera d'en parler avec vous, Anissé Mbida, pour l'innovation. Merci beaucoup,
merci Anissé.
Europe Matin.
6h51 sur Europe 1, les titres de l'actualité à Albin Leprince.
Long discours est fait à Moscou aujourd'hui. Vladimir Poutine a prévu d'officialiser l'annexion de 4 régions ukrainiennes à 14h heure française. Le président russe qui est revenu sur le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Il s'agit selon lui d'un acte de terrorisme international. Dans ce contexte de crise énergétique, les 27 vont tenter aujourd'hui d'adopter des mesures d'urgence. Pour ça, ils pourraient valider la proposition visant à récupérer une partie des profits des producteurs d'énergie pour les redistribuer aux consommateurs. Et puis à Nantes, une femme violée, un policier blessé, maintenant un corps calciné, celui d'un jeune garçon retrouvé hier. Une autopsie est prévue ce matin.
Nous devons aider le continent africain.
To live with us, the European dream.
Good friend of Taiwan.
Europe Matin.
La revue de presse internationale sur Europe 1 nous emmène d'abord en Grèce ce matin avec vous, Clémentine Athanasiadis. Bonjour.
Bonjour.
Les gros titres de la presse grecque.
À la une ici, les tensions toujours plus vives entre Athènes et Ankara. Le premier ministre grec a profité de l'inauguration d'un navire de guerre pour envoyer un message fort à la Turquie, écrit le quotidien Tanea. Sans citer le pays voisin, Kyriakos Mitsotakis a prévenu « Quiconque violera nos frontières sera puni », ajoutant que consolider les forces armées est une priorité du gouvernement. Selon le quotidien Efsin, les relations gréco-turques entrent dans une nouvelle phase. Sous forme d'ultimatum, continue le quotidien, Erdogan a exigé la démilitarisation d'îles grecques de la mer Égée, sans quoi la Turquie défendra par tous les moyens légaux les intérêts de la nation. Et plus tôt ce mois-ci, Ankara a une nouvelle fois contesté l'intégrité territoriale de la Grèce. Erdogan, fragilisé, use de rhétorique nationaliste pour rallier son électorat en vue de la prochaine élection présidentielle, analyse Tanea. Selon le journal, le président turc tente aussi de préparer l'opinion publique de son pays à une possible attaque contre la Grèce.
Partons maintenant pour l'Afrique du Sud avec vous, Patricia Huon. Qu'est-ce qui fait la une des journaux sud-africains ?
Ce dont on parle en Afrique du Sud, c'est des coupures de courant intempestives qui durent maintenant jusqu'à 10 heures par jour. Dans une interview avec la télévision INCA, le président de l'Association médicale sud-africaine déclare que la situation dans les hôpitaux publics est critique et que le taux de mortalité lors des accouchements ou pour les personnes en soins intensifs risque d'augmenter à cause de ces délestages. L'impact est encore pire dans les zones rurales, explique News 24, car de nombreux cliniques dépendent de pompes électriques pour leur approvisionnement en eau. Independent Online rapporte que le gouvernement étudie la possibilité d'éviter les délestages aux principaux hôpitaux, alors que le problème risque de perdurer pendant plusieurs mois.
Nous sommes enfin au Mexique avec vous, Gwendolina Duval. De quoi traite la presse mexicaine ce vendredi ?
Eh bien, c'est une nouvelle qui devrait réjouir les travailleurs mexicains qui espèrent pouvoir prendre des vacances bientôt. Le gouvernement propose de doubler la durée minimum des congés payés, annonce le média Expansión Política. Pour autant, ça ne veut pas dire que les Mexicains vont se la couler douce, parce qu'en réalité, on parle de passer de 6 à 12 le nombre de congés. Et oui, le Mexique est en fait l'un des pays du monde où l'on travaille le plus, explique Sin Embargo. La loi n'a pas évolué depuis un demi-siècle, donc il s'agit de mettre fin à une injustice, rapporte l'Economista, parce que si on compare avec le Brésil, qui a une économie similaire, les Mexicains travaillent 30% de plus. Et selon une étude présentée par El País, cela a des conséquences sur la santé des travailleurs. 75% d'entre eux présenteraient une fatigue chronique à cause du stress lié au travail.
Merci Gwendolina Duval, merci à nos correspondants. 6h54, dans un instant la suite d'Europe Matin avec Dimitri Pavlenko.
Europe Matin.
6h57, bonne matinée avec Europe 1.
Et vous retrouvez Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri.
Bonjour Alexandre, bonjour Omblin. Quel jour sommes-nous ?
Le 30 septembre. Oui. Vendredi.
On est le vendredi.